Mercredi 12 octobre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, le bras de fer continue dans les dépôts pétroliers, dans les raffineries. Le gouvernement s'en mêle et dégaine les réquisitions. Au milieu de tout cela, les automobilistes, toujours privés de carburant. La situation s'aggrave dans les stations, on va voir ça. Les réquisitions, alors comment ça fonctionne? Fiction ou réalité? Nous irons à la raffinerie Esso du Havre, où les salariés ont voté la poursuite du mouvement hier soir après un début de reprise du travail. Dans ce journal également, l'examen du projet de loi de finances. Il tourne au cauchemar pour la majorité à l'Assemblée. Récit de séance à suivre. Et puis le football, paraît accroché sur sa pelouse hier soir par le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Un partout, Kylian Mbappé lui était partout sur le terrain et dans les conversations, puisque la star envisagerait de quitter le PSG. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plus d'essence dans les stations, pratiquement plus d'essence dans le réservoir. La pénurie prend des proportions inquiétantes dans certaines régions. En Ile-de-France, le point critique est atteint. Une pompe sur deux est à sec sur au moins un produit, sans plomb ou diesel. Parfois les deux. Et ce n'est qu'un exemple et on va justement faire le point de la situation avec vous, Baptiste Morin. Bonjour.
Bonjour.
Combien de stations-service sont concernées par ces pénuries? Est-ce qu'il y a des régions plus touchés que d'autres?
Alors, au niveau national, on compte toujours un tiers des stations-service du pays en manque d'un ou de plusieurs carburants. On parle donc de plus de 3500 sites concernés. La situation s'est aggravée ces dernières heures dans deux régions. En Ile-de-France, où une station sur deux est désormais touchée. Et puis dans le centre-Val de Loire, Orléans, Tours, Blois, Vendôme, là aussi, une station sur deux manque d'un ou de plusieurs carburants. Et puis, si vous prenez la carte de France plus largement, vous observez aussi une concentration de stations-service en difficulté à Toulouse et sur la Côte d'Azur.
Alors côté négociation, Baptiste, où en sommes-nous ce matin? Est-ce que l'on peut espérer que cela aboutisse à la levée des blocages?
Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Que ce soit du côté d'Esso, ExxonMobil ou de Total Energy, le groupe Total invite à une réunion de concertation cet après-midi tous les syndicats, dont la CGT, à condition qu'elle lève tous les blocages avant midi. De son côté, le gouvernement, vous l'avez dit Dimitri, brandit la menace des réquisitions. Les arrêtés sont prêts, nous dit le ministère de la Transition énergétique. Ils concernent les sites Esso, ExxonMobil de Port-Jérôme et Fos-sur-Mer, mais aussi le site Total de Flandre, c'est près de Dunkerque. Le gouvernement espère que la seule menace suffira. Pour l'instant, elle a surtout envenimé la situation. Ce matin, la raffinerie Total de Donges, dans la Loire-Atlantique, rejoint le mouvement de grève.
Explication en direct, Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Alors le gouvernement prêt à appuyer sur le bouton réquisition, l'arrêté est pris, mais non publié. On reste au stade de la menace. Elle vise les salariés, vous le savez, d'Esso, ExxonMobil, où un accord salarial a été trouvé lundi. Bonjour Guillaume Dominguez.
Bonjour.
Alors vous êtes en direct du dépôt Notre-Dame de Gravenchon, c'est tout près du Havre. La menace de réquisition a-t-elle produit un effet sur les grévistes?
Eh bien oui, mais un effet de courte durée. Hier après-midi, quelques heures après l'annonce de la Première Ministre, la menace des réquisitions a finalement poussé une partie des salariés grévistes du dépôt à reprendre le travail. On a donc vu sortir un peu avant 20h une colonne de camions-citernes chargés de carburant. Mais la reprise du travail s'est arrêtée net à 22h hier soir. Les syndicats ont alors rassuré les salariés grévistes, leur demandant d'attendre les réquisitions et qu'en cas de problème, des recours seraient possibles. Écoutons Reynald Prévost, il est délégué général Force Ouvrière.
On va attendre d'avoir déjà la réquisition parce qu'on entend plein de choses. Si c'est obligé les salariés grévistes à reprendre le travail, oui, on va contester obligatoirement. Nos services juridiques, nos avocats sont en ordre de marche. Effectivement, si à un moment c'est pour interdire le droit de grève des salariés, on va réagir obligatoirement.
Syndicats et salariés ont donc voté la reconduction de la grève pour la raffinerie et pour le dépôt jusqu'à au moins 14h aujourd'hui. Une réunion est prévue avec la direction dans la matinée.
Guillaume Dominguez en direct du dépôt Notre-Dame de Gravenchon près du Havre.
Voilà, selon le journal Le Parisien, à Gonfreville-l'Orcher, la grande raffinerie normande de Total, qui n'est pas très loin de là où se trouve Guillaume Dominguez, sur 1200 salariés de la raffinerie, il n'y en avait hier que 32 qui étaient dans la grève et parvenant à bloquer totalement la raffinerie. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les débats autour du projet de loi de finances de budget 2023 tournent au pugilat.
Ouais, comme un avant-goût du débat sur le budget proprement dit qui attend le gouvernement à partir d'aujourd'hui, il y a eu l'altercation verbale entre le ministre Bruno Le Maire et les élus du Rassemblement national lors des questions au gouvernement. Ça, c'était pour le hors-d'œuvre. Le plat de résistance s'est avéré particulièrement indigeste pour la majorité. Sa loi de programmation budgétaire a été largement revue et corrigée par l'opposition. Le tout dans une ambiance électrique, Alexis de la Fontaine.
Pour 194 contre 215, l'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Oui, la majorité reste sonnée article après article. L'opposition rejette les demandes du gouvernement. En réalité, c'est uniquement grâce au bon vouloir des Républicains que certains amendements sont adoptés. Alors à droite, on exulte. Plus que des faiseurs de rois, nous sommes les décideurs, clame un député. En coulisses, un autre, conscient de son importance, fait le signe de vie ou de mort avec ses mains pour narguer ses camarades. De quoi faire enrager Gabriel Attal, le ministre du budget.
On a l'impression que le budget de la France est une espèce de piñata sur laquelle vous voulez taper le plus fort possible pour la faire tomber. La réalité, c'est qu'il y a l'intérêt général, les convictions et le fait de battre le gouvernement qui arrive tout en haut de la pile dans les votes.
Bien que ces articles soient en dehors du projet de loi de finances, ils donnent un avant-goût à la majorité des jours à venir. Mais en Macronie, pas d'inquiétude, le 49-3 réglera le débat, répond un ministre. Maintenant, la seule question, c'est quand le dégainer ? Pas avant dimanche, selon un député de la majorité. Sinon, on renforcera la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. En attendant, les débats reprennent aujourd'hui à 15h.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, maigre consolation pour la majorité. L'Assemblée adopte la réforme de l'assurance chômage avec le concours des voix des Républicains. Le texte permettra au gouvernement de moduler les paramètres ouvrant droit aux indemnités en fonction de la situation économique.
À 7h06 sur Europe 1, la guerre en Ukraine. Faut-il y voir une timide avancée diplomatique ? Vladimir Poutine se dit prêt à rencontrer Joe Biden.
Ouais, c'est son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui le dit. Le chef du Kremlin pourrait accepter de discuter avec son homologue américain. La rencontre pourrait se faire dès novembre, en marge du G20. Encore faut-il s'entendre sur l'objet de la discussion, lui répond Joe Biden. S'il s'agit de négocier le maintien des Russes sur toute ou partie de l'Ukraine, eh bien c'est non, a-t-il fait savoir sur la chaîne CNN.
En attendant, sur le terrain, les bombardements s'intensifient côté russe.
Hein. Les frappes aériennes qui ont visé une vingtaine de villes, selon l'état-major ukrainien, plusieurs attaques de drones kamikazes signalées à Odessa et dans la région de Kiev. Bombardement qualifié de crime de guerre par la France. William Molinier, est-ce un tournant dans cette guerre comme l'a affirmé Emmanuel Macron ?
C'est en tout cas une réaction russe immédiate à la reconquête des territoires ukrainiens perdus. Cette série de bombardements n'est toutefois pas inédite. Rappelez-vous, l'invasion de l'Ukraine en février et mars dernier s'était accompagnée d'une campagne de frappes aériennes massives. Et c'est surtout le signe de l'arrivée de conditions climatiques défavorables pour la conquête territoriale au sol. Le mauvais temps, les pluies, la boue compliquent la progression des chars et des troupes. Résultat, les Russes prennent ce qu'il y a à prendre par les airs, analyse une source militaire. Le retour des bombes venues du ciel en Ukraine, c'est aussi sans doute la conséquence directe du changement du commandement militaire russe. Il a été fait rarissime, annoncé par le Kremlin il y a 4 jours. Sergueï Sourovikine, 55 ans, vétéran de la guerre en Tchétchénie et en Syrie, désormais architecte de l'offensive russe. Comme tout nouveau stratège militaire, il doit faire ses preuves, proposer des solutions au Kremlin et donner l'illusion d'avancer. En attendant le retour, sans doute au début de l'hiver, des combats terrestres dans les grandes plaines de l'Est.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1, la guerre en Ukraine et ses conséquences, il en sera largement question ce soir. Emmanuel Macron est l'invité de France 2 à partir de 20h30.
Oui, j'ai dit demain soir, mais non, c'est bien ce soir que le président de la République est à la télévision. On passe au football. Le Paris Saint-Germain accroché une nouvelle fois par le Benfica Lisbonne hier soir.
Hein. Et un partout, Paris conserve évidemment toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a marqué, mais ce sont ses envies de départ révélées dans la presse avant le match qui ont évidemment intéressé le public et les spectateurs. Évidemment, ciel de la Morinerie, on était curieux de voir comment le public parisien allait accueillir la star.
Oui, Kylian Mbappé n'a rien laissé transparaître sur le terrain. D'ailleurs, la star n'a pas hésité à s'emparer du ballon pour tirer lui-même le pénalty. Neymar a été spectateur. L'attaquant de 23 ans, nullement déstabilisé par les informations dévoilées quelques heures plus tôt sur ses états d'âme au PSG, a fait trembler les filets. Kylian Mbappé, qui aurait pu marquer un deuxième but s'il n'avait pas été signalé hors jeu, a été ovationné par le Parc des Princes, confirme Dylan, supporter parisien.
Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus sifflé. Et puis finalement, non, il y a eu beaucoup de respect, il a fait un beau match.
Mais Patrick n'est pas tout à fait de cet avis.
Je pense qu'il a été un peu tourmenté par l'histoire, ouais, je pense. On a vu pas mal de choses sortir sur Europe 1. Il a voulu prouver qu'il reste un des plus grands leaders du PSG.
En attendant, la cote de popularité de Kylian Mbappé au PSG est toujours à son zénith.
Kiki, on veut que tu restes au PSG, t'as plein de titres à gagner avec nous.
Allez Kiki !
Les fans parisiens espèrent que Kylian Mbappé, victime d'une petite torsion à la cheville, sera à 100% dimanche prochain. La star sera de nouveau scrutée de très près lors du classique PSG-OM.
Un ciel de la Morinerie du service des sports d'Europe. Tiens, Marseille tentera de se relancer dans la course à la qualification ce soir face au Sporting Portugal. C'est toujours de la Ligue des Champions.
Merci Christophe Lamar. Dans un instant, la comédienne Elsa Zilberstein est l'invitée d'Europe Matin.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Il y a 5 ans, Simone Veil nous quittait à l'âge de 90 ans. 5 ans plus tard, un film lui rend hommage cette semaine. Ça s'appelle Simone, le voyage du siècle, réalisé par Olivier Dahan. Et c'est sur tous les écrans aujourd'hui. Bonjour Elsa Silberstein.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Vous êtes Simone Veil à l'écran, en tout cas dans la force de l'âge, parce que vous partagez le rôle avec 3 comédiennes, c'est ça? Vous êtes 3.
Il y a une petite fille, oui. Et puis il y a Rebecca Marder qui la joue dans la vingtaine. Et ensuite, je prends le rôle, oui.
Vous êtes d'une ressemblance, le terme n'est pas bien choisi. Une vraisemblance troublante avec Simone Veil, ça c'est la magie du maquillage. Mm-hmm. Et puis il y a tout ce travail que vous avez fait pour incarner Simone Veil. Mm-hmm. On va commencer par là parce que je pense que les gens qui vont aller voir le film au cinéma vont être bluffés de la performance de comédienne Elsa Silberstein.
Merci déjà, merci, ça me touche beaucoup. Je dis toujours, si c'était que le maquillage, tout le monde pourrait être maquillé. C'est pas que le maquillage. Et puis, c'est jamais heureux de raconter tous les dessous, dans une cuisine, quand tu vas manger un plat, tu racontes pas tout ce que tu as fait. Néanmoins, c'est vrai que j'ai pris 9 kilos, c'est vrai que j'ai voulu comprendre, rentrer dans sa psyché, dans ses pas, dans sa respiration, dans ses mots, dans son intime. Je voulais que rien ne soit plaqué. Je voulais que dans mes yeux, il y ait cette douleur et en même temps, toute cette humanité que j'ai ressentie en la rencontrant. Voilà, il fallait vraiment l'incarner, qu'elle soit dans mes pas. Et ça a mis un an, en fait, pour que ça vienne de ma plante des pieds jusqu'à mon crâne, pour qu'on ressente vraiment. J'ai pris 9 kilos aussi, je disais... Pour que chaque geste soit naturel dans chaque position qu'elle peut avoir, dans ses réactions, dans sa manière de regarder tellement humaine et empathique.
Et puis la voix, la scansion.
Voilà. Et la voix, j'ai travaillé avec Tomatis qui m'a aidé à préparer la voix pendant 8 mois.
Vous avez appris le Simone Veil comme une, langue, comme une langue étrangère.
Ben, j'ai eu l'idée d'appeler un institut qui s'appelle Tomatis, pour les gens qui ne connaissent pas, où on apprend les langues étrangères. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit non, on m'a raccroché au nez. Puis une heure après, ils m'ont rappelé, on m'a dit, oh, c'est tellement intéressant, on voudrait vous rencontrer. Ouais. Et j'ai raconté, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et après, j'ai écouté sans relâche.
Alors, quelle vie Simone Veil quand même, ce film 2h20 arrive à faire tenir toute sa vie, évidemment, les grandes lignes, mais quand même, déportée à l'âge de 16 ans, elle y perd ses deux parents, son petit frère, sa sœur quelques années plus tard dans un accident de la route. Sciences Po, c'est l'une des premières femmes magistrates de France. Ouais, un absolument. Combat pour les conditions de détention, puis une femme politique, etc. etc. Et puis il y a ce combat aussi pour la reconnaissance de la déportation, la mémoire de la Shoah, Elsa Silberstein. Qu'est-ce que vous retenez globalement? Est-ce que vous choisissez dans ce parcours de vie exceptionnel, ou bien c'est ce tout qui vous a guidé?
Je dirais que c'est ce tout, c'est cette force de vie. Quand tu commences ta vie dans l'ignoble, dans l'ignominie, dans l'innommable, comment tout d'un coup la force de vie, le choix de vie qu'elle fait et la survivante qu'elle est décide de choisir la lumière. Et ça, c'est extraordinaire. Comment elle s'est battue, finalement, comment ça a conditionné tous ses choix, comment elle se bat pour les femmes, pour la dignité des êtres, tout simplement, dans les prisons, comment elle veut l'Europe, fondamentalement, comment elle se bat pour l'avortement, évidemment, pour que les femmes ne soient pas...
J'allais oublier le combat pour l'avortement, mais vous avez raison, c'est le premier souvenir spontanément qu'on a d'elle.
Voilà, elle est engagée par Chirac et Giscard d'Estaing, et elle devient ministre de la Santé en 1974. Comment elle se bat, justement, pour le droit des femmes? Comment tous ces combats sont encore d'actualité? C'est ça qui m'a fascinée, en fait. Petit à petit, plus le film avançait, et puis là, de ce qui s'est passé cet été aux États-Unis, je me suis dit, finalement, tous ces combats, quand on lit les discours qu'elle a écrits, ils auraient pu être écrits il y a 3 mois. Donc, c'est finalement, ce qui était beau et ce qui m'a attirée aussi, c'est la petite histoire dans la grande histoire, parce qu'elle nous parle de notre siècle, elle nous parle de nous, Simone Veil. Comment elle s'est battue, et pour aller vers la lumière, elle ne reste pas, comme elles disent toutes les déportées, on reste des filles du Birkenau, on reste, ce que me disait Paul Schaeffer aussi, ou Marceline Loridan, ou Ginette Colinca. On est toujours là-bas. Elles sont sorties, mais elles sont toujours là-bas.
Elle continue à voler des petites cuillères dans les bistrots parisiens pour se souvenir. C'est ce qu'elle avait fait à Bergen-Belsen pour sa mère.
Et c'est bouleversant d'ailleurs, cette anecdote. Finalement, comment toute sa vie est conditionnée par ce drame de départ. Et du coup, son attachement, effectivement, à la dignité, au respect des droits de l'homme, au respect des êtres. Quand elle se bat aussi en Yougoslavie, elle voit les camps en Yougoslavie au moment de la guerre, et elle dit, mais comment la Croix-Rouge laisse faire ça? Donc c'est toujours quelqu'un qui sait, au-delà de la politique et des emplois qu'elle a eus, ou des postes très haut placés, ce n'est pas une femme politique comme on peut en voir. Elle ne s'attache pas à son petit pouvoir, à ce qu'elle a, mais elle s'attache à tout ça pour faire évoluer la vie des gens, aussi bien dans les maternités aussi, ce qu'elle a fait pour les aides de maternité ou pour l'adoption. Il y a des choses qui ne sont pas dans le film, mais tous ces combats sont des combats humains. Mmh. Et c'est pour ça que c'est une femme hors norme, c'est une femme qui manque aujourd'hui, c'est une femme... Et elle s'indignait. Elle s'indignait comme les droits de l'homme n'étaient pas respectés.
Oui. Alors Olivier Dahan, c'est son réalisateur, c'est son troisième grand portrait de femme.
Oui, hein. Oui, absolument.
La Môme, Édith Piaf, Grâce de Monaco. Mm-hmm. Et je crois que c'est vous qui lui avez soufflé à l'oreille, fait un film sur Simone Veil.
En fait, j'ai eu la chance de connaître Simone Veil. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Et assez vite, en la rencontrant, je me disais, il faudrait qu'il y ait un grand film sur cette femme, elle est incroyable.
Et vous la rencontrez comment, enfin, si c'est pas indiscret
Non, pas du tout. En 2008, on me demande de remettre un prix à l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est le prix du Mons Scopus, à la Bourse à Paris. Et on me dit, tu vas écrire un discours. Et bon, voilà, il fallait une petite dose d'inconscience, j'ai écrit un discours et je suis allée devant elle, lui rendre hommage. Et on me met à sa table ensuite, et ensuite on a gardé des liens, voilà. Et aussi pour tous ces... Ce lien indicible, cette chose comme ça, de une reconnaissance, je ne sais pas, en tout cas cette femme m'a troublée dans son charisme. C'est un modèle tellement de résilience, de puissance, de volonté, de foi en l'homme. C'est aussi ça, quand quelqu'un vient de l'enfer comme ça et qu'elle va vers la lumière, l'amour de la vie et la positivité qu'elle a et surtout l'optimisme qu'elle a envers les êtres. Mmh. Et c'est ça qui est fou. Elle n'est pas en colère, elle a une colère forcément de ce qu'elle a vécu, mais quelque chose qui la pousse vers la lumière.
Ce film, l'avez-vous montré à la famille de Simone Veil? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Bien sûr, je l'ai montré. Je les ai tenus au courant de toute l'avancée du projet. Quand j'ai trouvé les producteurs, et puis je pensais qu'il y avait un seul metteur en scène pour faire ce film.
Vous vous êtes battue du début à la fin pour avoir ce film,
oui.
Elsa Zilberstein. Vous n'êtes pas qu'une comédienne qu'on allait caster.
Non, c'est vraiment un combat, parce que je trouvais qu'elle méritait un grand film. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Marceline Loridan Evans ou Ginette Kolinka. Je suis allée à Auschwitz avec Ginette. Et c'est des gens qui sont obsédés par la transmission. Et je sentais en parlant à Simone Veil qu'il y avait une obsession de la transmission. Qu'après, ces gens-là ne seraient plus là. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai intégré ça. Quand j'ai été chercher Olivier Dahan, je me suis dit, il y a une seule personne qui peut faire ce film qui ne sera pas... Je ne voulais pas que ce soit un film classique, un Wikipédia en images, comme on dit. Je me disais, Olivier, il va mettre du cœur, de la force, il va déconstruire le récit. Je savais qu'il y aurait de l'émotion. Et je me disais, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que le film soit bouleversant. Et la grande récompense, c'est qu'en ce moment, dans les salles, les gens sont absolument bouleversés. Dans les avant-premières que j'ai faites, qu'on a faites en province avec Olivier Dahan, les gens sont absolument soufflés du film parce qu'ils sont émus. Et ça, c'est vraiment la victoire. Et donc, j'ai tenu au courant la famille de chaque étape du film, bien sûr.
Merci beaucoup Elsa Zilberstein.
Merci
d'être venue ce matin sur Europe 1. Simone, le voyage du siècle, signé Olivier Dahan, c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma. Merci à vous,
merci.
Bonne journée.
Merci.
Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
La place à l'édito Écho. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Nicolas, pendant 20 ans, la France a perdu pratiquement toute la moitié de son industrie. Est-ce qu'elle peut résister? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une nouvelle vague de désindustrialisation avec cette crise de l'énergie que nous traversons?
Ah oui, il faut s'inquiéter. Mettez-vous à la place d'un dirigeant de PME industriel aujourd'hui. Hein. Vous travaillez dans un environnement national et international très compétitif. Il est difficile d'augmenter les prix de vente. Vous avez besoin d'argent pour investir dans le numérique, les robots, la décarbonation. Vos salariés font face à l'inflation et ils vous demandent des augmentations de salaire. Hein. C'est légitime. Et dans le même temps, vous avez le coût de l'énergie qui passe de 10% du coût des produits à 40% du coût des produits. Alors, bien sûr, il y a des aides publiques pour certaines entreprises. Mais enfin, c'est très compliqué. Beaucoup d'entreprises limitent déjà leur production. Hein. Vous l'avez vu, Duralex dans le verre, Ascometal qui est sidérurgiste, Dunkerque dans l'aluminium. À ces limitations de production, elles pénalisent aussi leurs clients qui ont du mal à se fournir. Les artisans, par exemple. Pensez à un ferronnier qui achète du métal. Bah, aujourd'hui, il peut se retrouver sans stock et sans possibilité de travailler.
Alors, c'est d'autant plus problématique, Nicolas, que la France avait des ambitions en termes de réindustrialisation.
Mais des ambitions, Dimitri, mais même de premiers résultats, hein, des résultats timides mais réels. On a vu des créations d'emplois positives en 2021, au premier semestre 2022, des projets d'implantation industrielle assez nombreux, même si ce sont souvent d'assez petits projets, des résultats en matière de compétitivité. C'est justement bien parce que nous étions sur la bonne voie qu'il faut soutenir notre industrie, qu'il ne faut pas tout gâcher.
Bon alors qu'est-ce qu'on fait concrètement maintenant, Nicolas ?
Trois choses. Premièrement, il faut des aides. Alors, ce n'est pas une politique intellectuellement grandiose, je vous l'accorde, mais enfin, si notre industrie s'effondre, personne n'y gagnera rien. Bon, l'État et les régions sont mobilisés, il y a des dispositifs, des subventions, des prêts, les entreprises doivent les utiliser, ça leur permet de tenir un peu. À moyen terme, un sujet clé, c'est bien évidemment la révision de la fixation du prix de l'électricité, qu'il faut dissocier des prix du gaz. Ce système est absurde, il pénalise les entreprises. Certains pays comme l'Espagne l'ont déjà fait. Et puis à long terme, c'est notre stratégie énergétique, qu'on ne peut pas dissocier de la question industrielle. Relance du nucléaire, développement du renouvelable. Écoutez, ce serait trop dommage de tout perdre alors que nous étions sur la bonne voie.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h24 sur Europe 1.
Europe Matin.
Le journal permanent Alban Le Prince.
Le gouvernement se prépare à réquisitionner les grévistes de deux sites Esso ExxonMobil. La CGT dénonce une entrave au droit de grève et étend la mobilisation à la raffinerie de Donges. A noter que la direction de Total Énergie propose aux syndicats non grévistes une réunion de concertation et d'échange cet après-midi. En Ukraine, le procureur général a annoncé hier avoir exhumé les corps de 78 civils retrouvés dans deux villes de la région de Donetsk. Dans ce contexte, Paris renforce sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN. Dans les prochaines semaines, une douzaine de véhicules blindés d'infanterie seront déployés, ainsi qu'une douzaine de chars Leclerc.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Il y a 20 ans, le 12 octobre 2002, l'île touristique de Bali, en Indonésie, est frappée par le terrorisme djihadiste. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà, cette double attaque à la bombe va faire plus de 200 morts.
Oui, deux attentats détruisent un bar et une discothèque parmi les plus fréquentés de Bali. Un kamikaze s'est fait sauter dans ce bar et une camionnette explose quelques minutes plus tard devant la boîte de nuit. Ce témoin est à 100 mètres de là et il s'en est sorti.
Bah, on voyait tous les gens qui couraient, des gens qui marchaient, qui boitaient, qui étaient en sang, des gens brûlés, des gens pieds nus, il y avait tout.
C'est un groupe lié à Al-Qaïda qui est derrière ces attentats. L'attaque visait à détourner les touristes de l'Indonésie, pays musulman le plus peuplé de la planète. Ces touristes français ont quitté le pays juste après l'explosion.
Les Balinais étaient très, très tristes. Enfin, ils nous demandaient si on avait apprécié notre séjour et que vraiment, si on voulait revenir. Et...
C'est les guides qui étaient les plus marqués parce qu'ils voyaient tout de suite l'impact que ça allait avoir sur leur activité, bien sûr.
Et en effet, les tours opérateurs annulent tous leur voyage en direction de Bali. Parmi les victimes de l'attentat, il y a 88 Australiens, 38 Indonésiens, 24 Britanniques et 4 Français.
Alors les autorités indonésiennes vont arrêter 3 hommes dans les semaines qui suivent.
Oui, ils sont jugés coupables et condamnés à mort en 2003. Au total, 33 Indonésiens seront condamnés pour avoir participé à l'attentat. Le président de la République, Jacques Chirac, s'exprime au lendemain du drame sur la menace terroriste mondiale.
Le crime de masse qui vient d'être commis en Indonésie, il est là pour démontrer que la menace terroriste reste universellement présente, dangereuse, active.
Ce mouvement terroriste en Indonésie est aussi très difficile à neutraliser. C'est ce qu'explique sur Europe 1, 3 ans plus tard, en 2005, Jean-Charles Brizard, expert sur les questions de terrorisme.
Ce pays est majoritairement composé d'une population islamique. C'est très compliqué, encore une fois, pour l'Indonésie de combattre ce mouvement, qui est un mouvement malheureusement populaire.
Après les attentats de Bali, en tout cas, l'Indonésie ne rompra pas ses liens avec les États-Unis et l'Australie, mais ils vont tous coopérer davantage en matière de sécurité.
Merci Lord d'Autriche. Allez à suivre sur Europe 1, chaque parmi vous, il y a des amateurs de romans policiers. Nicolas Carreau a dégoté pour vous l'un des meilleurs du genre en cette rentrée fiche de lecture. Juste après le journal de Roman Hockey, on ira faire un petit tour à Strasbourg et on découvrira la surprenante liste des produits qui n'ont plus droit de citer sur le marché de Noël de la ville. Vous allez être surpris. 7h27.
Europe Matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
Mercredi 12 octobre, soyez les bienvenus sur Europe 1. La pénurie d'essence les oblige à des choix impossibles. Dans un instant, nous suivrons la tournée d'une infirmière libérale. Confrontée à la crise du carburant, elle doit choisir ses patients. L'Europe pourra-t-elle faire face à la crise de l'énergie? La question sera posée à Emmanuel Macron. Il est invité à la télévision ce soir. La France a promis du gaz à l'Allemagne, notamment au nom de la solidarité. Mais la mise en route du gazoduc prend un peu de temps. On va vous expliquer pourquoi. Et puis, oubliez la tartiflette au marché de Noël de Strasbourg. Cet hiver, la ville écologiste vient de publier une liste de produits interdits à la vente. Le crucifix devient ainsi la croix de JC. On voit ça en fin de journal.
Europe. Matin.
Journal présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Quel est votre plan B ? Ce matin, aucune amélioration dans les stations-service. Ça s'aggrave même en Île-de-France. Plusieurs options, le vélo, les transports en commun, le covoiturage ou peut-être rien. Pas d'alternative pour ces Français qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Un exemple, les infirmiers libéraux qui sillonnent les routes pour s'occuper des plus fragiles. Pour Europe 1, Johan Tritz a suivi Kylian, une soignante obligée d'annuler des visites à domicile.
Regardez, il ne me reste plus grand-chose là. Mais ça tiendra pendant la durée de ma tournée.
Au volant de sa petite voiture noire, Kylian, infirmière libérale, se rend dans un petit appartement de Saint-Denis en banlieue parisienne où un jeune homme de 32 ans atteint d'un cancer et sa femme, désemparée, l'attendent pour une urgence.
Parce qu'il y avait des cailloux dans ses tuyaux. Si elle ne peut pas venir, on est foutu, quoi. Ça fait peur, ça fait très peur même.
Et c'est déjà la deuxième fois que l'infirmière de 45 ans fait l'aller-retour dans la journée.
À 4h du matin, j'étais obligée de revenir le voir parce que la pompe sonnait. Que j'avais vraiment très peu de carburant, mais j'avais pas le choix.
Aujourd'hui, elle se voit contrainte de limiter ses déplacements et tout le monde ne comprend pas.
Les patients appellent, ils veulent qu'on les soigne. Et ils comprennent pas pourquoi on passe pas trois fois, parce que sur l'ordonnance, le médecin a bien marqué trois passages. Et pourquoi vous ne passez pas trois fois ? Je veux bien passer trois fois, mais j'ai pas de carburant.
Alors, elle essaye d'anticiper.
Vous voyez déjà comment c'était difficile avec le carburant. Donc j'ai envoyé trois patients à l'hôpital qui étaient fragiles.
Ou tente même de trouver d'autres solutions en apprenant aux patients à se servir du matériel de santé. Elle fait même des visios pour éviter de prendre sa voiture. Mais à un moment, elle n'aura plus le choix. Il va falloir trouver du carburant.
J'ai ciblé deux stations de sens, donc j'irai faire la queue vers 2h du matin. Je prendrai une tasse de café, je vais faire la queue.
Si elle le prend avec le sourire, Kylian ne demande aujourd'hui qu'une chose, avoir un accès prioritaire aux stations essence.
Et des stations-service, ça sait qu'il pourrait y en avoir de plus en plus dans l'ouest de la France. La raffinerie de Donges en Loire-Atlantique a rejoint ce matin la mobilisation. Blocage reconduit aussi dans tous les sites Total Energy et Esso ExxonMobil. Une annonce a mis le feu aux poudres, la réquisition du personnel pour libérer les dépôts de carburant.
Oui, menace brandie hier par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, ciblant explicitement les salariés d'ExxonMobil, pour l'entreprise où a été signé un accord salarial lundi. Alors, le décret n'a pas été publié concernant ces réquisitions. L'idée de départ était de faire plier les grévistes par la menace.
Oui, et pour l'instant, c'est tout le contraire. Le mouvement se durcit. La CGT accuse même une entrave au droit de grève. Alors David Montagnier, on va essayer de comprendre avec vous qu'est-ce qui peut justifier ces réquisitions.
Eh bien, elles sont ordonnées par le préfet de chaque département, mais à des conditions bien strictes. C'est d'abord justifier une entrave au fonctionnement des services essentiels, ce qui n'est d'ailleurs pas défini par la loi et laisse donc place à interprétation. L'autre condition, c'est un risque de trouble à l'ordre public, une notion aussi particulièrement large. Alors aujourd'hui, sur les 8 sites touchés par le mouvement de grève, seuls 3 exploités par Esso sont concernés par ces réquisitions, mais des sites qui ont en fait déjà voté la reprise du travail. Par ailleurs, sur chaque site, elles ne doivent viser que les personnes considérées comme indispensable au service. Selon le ministère de la Transition énergétique, sur chaque établissement, 2 à 3 employés seulement seraient concernés. Des réquisitions qui doivent être individuelles, nominatives et notifiées par des huissiers de justice. Dans la réalité, pour échapper à ces réquisitions, les salariés récalcitrants peuvent toujours se mettre en arrêt maladie. C'est d'ailleurs ce que redoute l'exécutif qui, pour l'instant, en tout cas, n'a pas l'intention de plier. De leur côté, les syndicats dénoncent une atteinte disproportionnée au droit de grève et annoncent d'ores et déjà des recours devant les tribunaux.
Les explications de David Montagnier. La guerre en Ukraine et ses conséquences pour l'Europe, cela ressemble presque à un sujet de dissertation. Emmanuel Macron aura une heure pour y répondre. Le président de la République est l'invité de France 2 à 20h30.
Interview durant laquelle il sera question, entre autres, de la crise énergétique. Le mois dernier, Paris et Berlin avaient annoncé un accord.
Oui, un deal donnant-donnant. L'Allemagne doit livrer de l'électricité à la France. La France, elle, s'occupe d'acheminer du gaz en Allemagne. Justement, le gazoduc passe en Lorraine à 100 kilomètres de la ville de Metz. C'est par là que passait le gaz russe avant la guerre. Baptiste Morin, la France va désormais s'en servir pour son voisin allemand.
Oui, mise en route imminente pour le gazoduc d'Obergeilbach. La France s'est engagée à fournir chaque jour à l'Allemagne jusqu'à 5% de ses importations de gaz afin de répondre à 2% de la consommation allemande. Si les livraisons n'ont toujours pas débuté aujourd'hui, c'est d'abord parce que le gazoduc avait été conçu pour fonctionner d'est en ouest. Il a donc fallu intervenir, explique Patrick Geoffron, professeur spécialiste de l'énergie.
Transporter du gaz, c'est pas comme de l'électricité. Il y a un sens de transport, il y a des étapes intermédiaires dans lesquelles on remet de la pression de telle manière à ce que le gaz puisse continuer à avancer. Ça explique qu'il a fallu quelques semaines pour mettre en œuvre cette inversion des flux.
Ajoutez à cela une question d'odeur. Oui, d'odeur. Le gaz en France est odorisé, pour prévenir tout de suite, mais ce n'est pas le cas en Allemagne. Berlin s'est donc concerté pour finalement adopter la règle française en urgence. GRT Gaz, le transporteur français, nous confirme que les livraisons doivent débuter en principe cette semaine. Mais pour l'heure, pas un kilowattheure de gaz n'a encore été livré à l'Allemagne.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Plus fort que Bruce Willis de Armageddon, il y a désormais DART de la NASA.
Today, NASA confirms... That DART successfully changed.
L'agence spatiale américaine a confirmé donc hier soir le succès de sa mission en test lancée fin septembre.
Et oui, on en avait parlé sur Europe 1. Souvenez-vous, un vaisseau avait été volontairement projeté sur un astéroïde afin de tenter de modifier sa trajectoire.
Oui, c'était une répétition générale en cas de pépin pour nous, l'humanité. Eh bien, c'est une réussite, pas besoin donc de sacrifier Bruce Willis. 7h37, je déclare, Dimitri, officiellement la saison ouverte. Oui,
vous êtes
en retard. Oui, bah, si, quand même, le 12 octobre, on a le droit sur
Europe
1.
C'est bon, vous avez le sapin, les guirlandes.
Alors, pas encore, mais on y réfléchit. Première musique de Noël de la saison, car oui, dans 74 jours déjà, c'est le réveillon. Pour patienter, on va parler de la capitale de Noël, Strasbourg et son marché, dès le 25 novembre. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour Romane, bonjour à tous.
Dimitri, la mairie écologiste a publié hier la liste des articles interdits à la vente dans les petits chalets de bois. Un critère, c'est le Made in Alsace. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelques surprises.
Eh bien, tout d'abord, du côté alimentaire, au menu, au revoir la tartiflette, place à sa version alsacienne, la Munstiflette. Plus de champagne, non plus dans les stands, remplacée par du crément. Quant à la bière chaude, elle est autorisée à la vente, mais seulement si elle est produite par des brasseurs artisanaux. Des produits non alimentaires sont également concernés, comme les parapluies ou encore crucifix fabriqués en Asie, qui seront interdits à la vente. Finalement, le mot d'ordre, c'est l'authenticité alsacienne et le respect de l'esprit de Noël. Une liste qui laisse les commerçants et habitants un petit peu perplexes, qui dénonce l'incohérence de certaines décisions, puisque la municipalité autorise dans le même temps la vente des produits italiens, hot dogs ou même des samoussas. De son côté, la mairie de Strasbourg balaye l'incompréhension, expliquant que les commerçants ont été consultés et elle précise que les exposants qui ne respecteront pas ces interdictions pourraient bien voir leur présence au marché de Noël menacée en 2023.
Merci Dimitri Vernet pour ces explications. Voilà, vous l'aurez compris, donc Dimitri, le menu ce sera minstiflette et crémant si vous passez par le marché de Noël de Strasbourg.
La minstiflette, je ne connaissais
pas. C'est
pas
mal, oh, ça doit être très bon, je suis sûr.
Du fromage sur des pommes
voilà,
de terre.
Voilà, exactement,
au four,
c'est tout
hop,
bon, Paris gagnant.
Ça marche tout le temps. Merci beaucoup Romano, okay, c'était votre journal. On va vous retrouver tout à l'heure à 9h. Les sorties ciné de la semaine arrivent dans un instant. Avec Laurie Choleva, de même que le livre du jour avec un super policier signé Nicolas Caro, enfin trop dégoté par Nicolas Caro, je vous l'ai promis. Ce sera juste après Vincent Hervouette qui nous guidera ce matin dans les sables mouvants de la diplomatie saoudienne. A tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Le livre du jour arrive dans un instant, Nicolas Caro. Alors si ce n'est pas le livre de l'année, en tout cas la couverture peut-être.
Magnifique.
Elle est magnifique.
C'est Sonatine, hein. Toujours des couvertures magnifiques.
Voilà, je sais que vous avez beaucoup aimé ce livre, ça s'appelle Polar. Blackbird. On en parle dans un instant. Et les sorties ciné, bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Dimitri.
Gros programme ce mercredi. Hein.
Gros programme, un film d'aventure, c'est notre Indiana Jones, ça y est, on l'a eu.
Voilà,
et ça s'appelle Jack Mimoune et les secrets de Valverde.
Ah ouais, avec
ça
ne
faut pas toucher au patrimoine.
Mais d'abord, l'édito international Vincent Hervouet. Bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Joe Biden veut réévaluer la relation des États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Le président américain ne digère pas que l'OPEP ait décidé la semaine dernière de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour.
Oui, pomper moins, c'est une précaution pour que le cours du baril se maintienne autour de 100 $. Et cette décision permet à Vladimir Poutine de financer son effort de guerre en vendant mieux sa production. À l'échelle mondiale, cela aggrave les risques de récession. Aux États-Unis, ça va peser sur le scrutin du mid-term dans 3 semaines, car on le sait, l'électeur américain décide de son vote quand il fait le plein à la station-service. On comprend que Joe Biden se sente cocu et mécontents.
Oui, on se souvient qu'il était allé en personne à Riyad au mois de juillet pour réclamer une augmentation de la production.
Oui, une visite éclair et un voyage un peu honteux. Et pour cause, pendant sa campagne, il avait promis de traiter Mohamed Ben Salman, le prince d'Arabie, en paria. Sa ligne de conduite était simple, faire en tout le contraire de Donald Trump. Et l'ancien président avait scellé une nouvelle alliance avec Riyad. Une fois élu, Joe Biden a donc suspendu les ventes d'armes, diffusé un rapport du renseignement américain accusant le prince héritier d'avoir validé l'assassinat de Jamal Khashoggi et juré de traiter avec le seul roi Salman. Et puis, la guerre en Ukraine a imposé ses priorités. Quand Joe Biden débarque à Jeddah, c'est le prince qui l'accueille. Le vieux roi est dans un état bien pire que le président américain. Il a été hospitalisé 2 fois cette année et son fils d'ailleurs a été nommé Premier ministre. Joe Biden évite les accolades avec le paria. Les journalistes américains sont tenus à l'écart, mais il y a un photographe de la cour qui immortalise l'instant, les deux hommes se saluant avec un fist bump, vous savez, le poing contre le poing. Joe Biden croit ainsi éviter de se salir les mains. 3 mois après, c'est le point de MBS qu'il a pris en pleine figure.
L'image est parlante. C'est l'échec de la réalpolitik, cette affaire.
Il ne suffit pas d'être cynique pour réussir une politique. Les Saoudiens défendent leurs intérêts. Ils considèrent les Américains comme des concurrents directs avec le gaz de schiste et les Russes comme des partenaires au sein de l'OPEP. Ils refusent en tout cas de s'enrôler dans la croisade américaine en Ukraine. À l'occasion, ils servent d'ailleurs de médiateurs. Ils ont obtenu la libération d'Américains et de Britanniques faits prisonniers sur le front ukrainien. Et ils ne sont pas les seuls à discuter avec le Kremlin. L'homme fort des Émirats Arabes Unis est aujourd'hui à Moscou en visite d'État.
Alors la Maison-Blanche parle de réévaluation de la relation avec l'Arabie Saoudite. Ça veut dire quoi réévaluer ?
Ça fait 20 ans qu'ils en parlent, depuis qu'ils ont réalisé que 15 des 20 terroristes du 11 septembre étaient saoudiens. Jusqu'à présent, ça n'a pas empêché les ventes d'armes. L'Arabie reste le premier client des Américains. Mais les Saoudiens doutent désormais de la protection américaine et ils ont diversifié leur partenariat, notamment avec la Chine. La guerre en Ukraine n'est pas la leur. Elle ne mérite pas de sacrifier leurs intérêts. Une seule chose pourrait sans doute les mobiliser, que l'Amérique maintienne l'Iran en quarantaine ou l'empêche d'acquérir l'arme nucléaire. Mais ça, c'est la guerre de demain, ce n'est pas la guerre d'aujourd'hui.
Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Il est 7h46.
Europe Matin.
Nicolas Caro, le livre du jour. On quitte un peu la rentrée littéraire française pour l'Amérique, toujours.
Et ça vaut le coup, vous allez voir. Le livre s'appelle Blackbird chez Sonatine. Couverture Sonatine, je vous disais au passage, superbe. Comme toujours, un ciel noir et gris, terrifiant. C'est signé Ailel Levin et James Keane. Vous connaissez James Keane ?
Non, je devrais.
En tout cas, avant 1996, tout le monde voulait le connaître. Jeune type dans la banlieue chic de Chicago, bonne famille, populaire, vous pouvez l'appeler Jimmy. Papa pompier et policier, maman qui possède un restaurant branché, sportif. Jimmy pratique 3 sports différents, il excelle en tout. La coqueluche de son petit monde et après, il réussit aussi dans différents business. À cette époque, écrit-il, où que je loge, il y avait toujours une Corvette dernier modèle dans l'allée, une moto de course et une Harley dans le garage et une fille très sexy dans la chambre. Oui, il est un peu beauf aussi. Mais en 96, donc, il est jugé pour trafic de drogue et condamné à 10 ans de prison. Ouch. Tout ça est vrai.
Oui, ce que j'allais vous demander, c'est il raconte cette histoire dans le livre avec Hillel Levin, le co-auteur, c'est ça ?
Exactement. Hillel Levin, lui, il est journaliste. Mais attendez, le meilleur est à venir. Jimmy assume, il a pris 10 ans, donc il y va. Ça fait 10 mois qu'il est en prison et le FBI vient le voir. Il lui propose un arrangement. Jimmy est un peu méfiant, il est emmené menotté dans une salle, on lui donne une enveloppe, il ouvre. C'est la photo du cadavre d'une jeune fille. Puis une autre, et une autre. Au début, Jimmy se demande s'il le soupçonne de ses atrocités, de ses crimes, mais pas du tout. Il se trouve qu'un psychopathe a été arrêté. Il s'appelle Larry Hall. Il a été inculpé pour un seul meurtre, mais il en a au moins commis 20. Impossible de le faire avouer, ni de trouver des corps et tout ça. Et voilà le deal. La peine de James sera annulée s'il accepte d'être intégré, infiltré dans l'unité psychiatrique haute sécurité du psychopathe pour gagner sa confiance. Tout ça est vrai. Hein, ouais. Et récolter des aveux ou au moins des éléments sur ses autres victimes, il pourrait envoyer un agent. Mais Hall, le tueur, très très intelligent, le repérerait tout de suite. Ce qui intéresse le FBI chez Jimmy, c'est son côté caméléon, son côté populaire, mais aussi dealer de drogue. Il a côtoyé tous les types de classe sociale, des voyous au grand patron, il sait se fondre dans le décor.
Vous iriez, vous, Nicolas, là ?
Pas du tout.
Pas du tout. Bon. Enfin, lui, il accepte, en tout cas.
Je sais pas.
James Keane accepte, bah, sinon il n'y a
je
pas de livre.
Pas de la drogue, déjà. il nous raconte, c'est addictif, évidemment qu'il accepte. Alors, bon, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a une série diffusée sur Apple TV,
ah oui,
adaptée
du
livre,
ouais.
Scénarisée par un autre romancier de génie, Denis Lehane, vous savez, l'auteur de Shutter Island. La série, je ne sais pas, mais le livre, en tout cas, vous pouvez y aller. C'est simplement dingue.
Bon, alors, il faut lire le livre avant de voir la série. Sinon...
Oh, toujours, toujours.
Ouais. Voilà.
Comme avec les films.
Ah
toujours
oui, je suis
le
d'accord.
Livre d'abord.
Sinon, c'est fini. Après.
On redonne le titre Black
Bird. En plus,
Bird.
Après, on peut dire le livre est quand même beaucoup mieux.
Ouais, ouais, ouais.
Et souvent, on dit ça. C'est ça, le pire.
C'est toujours vrai. Black Bird, c'est chez Sonatine de James Keane. Non ah, Vincent Arbouet, il préfère les films que le livre. Mais c'est un contrariane de nature, Vincent Arbouet, c'est pour ça. C'est signé James Keane et Hillel Levin. Merci, trafiquant de polar, notre ami. Nicolas Caro. Allez, les sorties ciné, Laurie Choleva, on part à l'aventure cette semaine.
Hein. Je vais fâcher Nicolas Caro, mais oubliez Harrison Ford, nous avons trouvé notre nouvelle Indiana
Impossible.
Jones. Il s'appelle Malik Bentala, il sort aujourd'hui son premier long métrage qu'il co-réalise avec Ludovic Colbeau-Justin. Ça s'appelle Jack Mimoun et les secrets de Valverde.
Ça ressemble pas à un héliport là, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit ?
Vous inquiétez pas, on est attendu.
Alors avec Jack Mimoun et les secrets de Valverde, Malik Bentala rend vraiment hommage au cinéma de son enfance, à tous ses films avec lesquels il a grandi, la série des Indiana Jones ou encore les Goonies de Spielberg, et puis également un certain cinéma d'action français comme L'Homme de Rio. Mais surtout, il réussit ce tour de force de rendre hommage sans jamais tomber dans la parodie, en imposant son propre style, son ton, son humour, sa chasse au trésor.
C'est vraiment le plus court pour atteindre la cascade ?
C'est moi là-bas, je suis pas cartologue, d'accord ?
Cartographe.
Oui, ben en Amérique du Sud, on dit cartologue. Excusez-moi d'être bilingue.
Alors le film regorge déjà de répliques cultes. Un mot sur l'histoire. Donc Malik Bentala incarne un aventurier star de la télé qui va être contacté par une mystérieuse jeune femme. Vous l'avez peut-être reconnu, la voix de Joséphine Japy dans la bande-annonce, pour se rendre sur l'île de Valverde à la recherche du trésor du pirate La Buse. Ça part en plus d'une histoire vraie puisque ce pirate a réellement existé.
La Buse.
La Buse, oui. Et pour cela, il va être accompagné dans sa quête du mercenaire Jean-Marc Bastos, incarné par François Damiens, et Bruno Kézac, le manager de Jack Mimoun, joué par Jérôme Commander.
On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise.
Je peux vous dire que le casting fonctionne. Bah, oui, ça, tout de suite, ça suscite du sourire. Le casting fonctionne à merveille. C'est très drôle. François Damiens, Jérôme Commander sont à mourir de rire. Il y a une scène d'anthologie avec une tarentule. Vraiment, je crois que j'ai rarement autant ri au cinéma. On découvre également un Benoît Magimel qui est aussi dans cette équipe, comme on l'a rarement vu. C'est un film ambitieux avec de l'action, de l'aventure, des bestioles, des sables mouvants, des crânes, un trésor, une île. Bon, bref, c'est notre Indiana Jones. Ouais, on l'a trouvé.
Malik Bentala, qui a longtemps été second couteau, hein. C'est le grand pote de Franck Gastambide notamment. Voilà, c'est son premier rôle-titre. Voilà. Et d'ailleurs, je signale qu'il est l'invité de Culture Média chez Philippe Vandal sur Europe 1 à partir de 9h. Laurie, je recevais il y a quelques minutes, tout à l'heure à 7h10, Elsa Silberstein, sortie aujourd'hui de Simone, Le Voyage du siècle.
Et oui, enfin, un biopic qui rend hommage à cette grande dame, à ce parcours de femme hors du commun. Et forcément, qui dit grand parcours de femme, dit Olivier Dahan à la réalisation, réalisateur de La Môme ou encore Grâce de Monaco, qui s'intéresse donc à la vie de Simone Veil, de son enfant. Enfance heureuse dans le sud de la France, à sa carrière politique, en passant par l'épisode tragique de la Shoah qui a déterminé tout le reste de sa vie. C'est une fresque incroyable, c'est un devoir de mémoire surtout d'aller voir ce film. Et puis l'interprétation d'Elsa Silberstein qui joue donc Simone Veil, une Simone Veil telle qu'on l'a connue, contemporaine, mais Rebecca Marder aussi qui joue Simone jeune, et qui, les deux hein, sont assez remarquables, je trouve.
Voilà, l'entretien avec Elsa Silberstein, je le signale, est à retrouver sur votre appli Europe 1 ou Europe1.fr. Merci beaucoup Laurie Choleva. À mercredi prochain, Nicolas. À demain, de même que Vincent. 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin.
Le journal permanent avec Alban Le Prince.
Après 3 semaines de mobilisation, la grève est reconduite ce matin sur le site normand d'Esso ExxonMobil, malgré la menace du gouvernement de réquisitionner les salariés des sites du pétrolier, où un accord a été trouvé entre les deux syndicats majoritaires et la direction. Colère de la CGT qui dénonce une entrave au droit de grève et étend la mobilisation à la 2e raffinerie de France, à Donge, en Loire-Atlantique. La guerre en Ukraine. Et la France renforce sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN avec l'envoi dans les prochaines semaines de nouveaux équipements et notamment une douzaine de chars Leclerc. Dans ce contexte, Emmanuel Macron est l'invité de France 2 ce soir. Premier volet, 100% axé sur l'international. Le deuxième sera diffusé le 26 octobre, cette fois-ci sur la politique intérieure.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri.
Dimitri Pavlenko.
L'édito politique avec Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Bonjour Vincent.
Bonjour Dimitri.
Vous vous penchez ce matin sur une étonnante déclaration de Greta Thunberg. La jeune Suédoise vient de dire, je la cite, « Si nous avons des centrales nucléaires déjà en activité, je pense que c'est une erreur de les fermer pour se concentrer sur le charbon. » Oh là là, l'égérie écolo s'est convertie au nucléaire.
Eh oui, hein, et c'est un événement, c'est un peu comme si Sandrine Rousseau se mettait à prendre en compte les droits de la défense ou si François Hollande décidait de faire le procès public de l'impôt. L'onction de Greta sur le nucléaire, c'est le point final d'un retournement total. Il y a 5 ans, défendre le nucléaire, c'était refuser le vent de l'histoire, vous savez, celui qui fait souffler les éoliennes. Le nucléaire était une énergie honteuse et faire sa promotion dans les médias, c'était pas une chose facile. Hein. On se sentait très vite, très seul, un peu comme si on était radioactif. On n'était pas dans l'ambiance. C'était en 2018. « Je reste convaincu que le nucléaire n'est plus une énergie d'avenir », disait le ministre de l'écologie Nicolas Hulot, et tout le monde s'inclinait devant l'oracle. Quand Elisabeth Borne, après avoir remplacé Hulot, ferme Fessenheim, elle explique pour sa part que cette décision, c'est de l'écologie de responsabilité. À l'époque, donc, l'écologie de responsabilité, c'était fermer une centrale productrice d'énergie décarbonée. C'était il y a 2 ans, mais politiquement, c'était il y a 1000 ans.
Mais à l'époque, cette volonté de réduire le parc nucléaire faisait consensus. Vous l'avez rappelé, Vincent, depuis la catastrophe de Fukushima au Japon, tout le monde avait changé de discours sur l'atome. Hein.
Alors c'est vrai en apparence, hein, mais en réalité c'est faux. Il y avait des voix, et non des moindres, pour faire la promotion du nucléaire. Marion Mourgue, journaliste au Figaro, a eu l'idée de se plonger dans le discours de Pierre Latte. Ben, c'est très intéressant le discours de Pierre Latte. Il a été prononcé le 25 novembre 2011 par un certain Nicolas Sarkozy. Nous étions donc quelques mois après Fukushima. Que dit celui qui est alors président de la République ? J'ouvre les guillemets. Le nucléaire, c'est l'intérêt supérieur de la France. Et Sarkozy pose la question. Le jour où on vous fera payer l'énergie 2 fois plus cher, est-ce que Saint-Gobain pourra garder son usine ici en France ?
C'est incroyable.
Alors 11 ans plus tard, si ce n'est pas Saint-Gobain qui hésite à garder son usine, bah ils sont malheureusement beaucoup d'autres dans ce cas. Ce discours, on le croirait écrit pour aujourd'hui. Donc c'est la preuve qu'on pouvait anticiper les crises à venir.
Tout à fait. On peut quand même reconnaître à Emmanuel Macron, Vincent, le fait d'avoir évolué sur la question.
Ah ça, il a évolué, c'est indéniable. Hein. Mais les archives, comme souvent, sont cruelles. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron, en février 2017, il répond à l'ONG WWF. Que dit le président ? Ce n'est pas bon d'avoir 75% de notre énergie électrique qui dépend du nucléaire. En 2021, aux Parisiens, il dit l'exact contraire. Nous avons la chance historique d'avoir 70% de notre électricité produite par le nucléaire, dit le président. Donc ce qui n'était pas bon devient 4 ans plus tard une chance historique. C'est quand même incroyable. Alors on nous dit aujourd'hui que le président a pratiqué une dissimulation tactique, une sorte de taquia énergétique pour arriver à ses fins. Bon, on peut le croire, mais on a le droit d'en douter. Quoi qu'il en soit, les défenseurs du nucléaire qui hier étaient ringards, aujourd'hui sont des visionnaires. C'est une belle leçon de politique, ce retournement. Ça nous rappelle qu'il n'y a pas de sens de l'histoire et que dans l'art de gouverner, rien n'est plus destructeur que la mollesse du conformisme.
Vincent Trémollet de Villers, merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, carburant, Elisabeth Borne en grand engage l'épreuve de force. Et je signale d'ailleurs l'excellent édito, une fois de plus, de votre consoeur Bertille Bayard sur Total Énergie, le salaud utile. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a une major. Qu'est-ce qu'on en dira dans quelques années, Vincent, hein, de Total, intéressant.
On fera peut-être des éditos dessus.
Exactement, 7h57. Nous sommes le mercredi 12 octobre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et voilà qui ressemble à un ratage. Le gouvernement pariait sur la menace des réquisitions pour faire plier les raffineurs grévistes ce matin. La situation, à l'inverse, s'envenime. La grève s'étend chez Total. La raffinerie de Donges rejoint le mouvement. Celle d'Esseau, au Havre. Le blocage, un temps levé, a repris. Nous y serons dans un instant. Dans les stations, c'est le coup de pompe. De plus en plus souvent à sec, notamment en Ile-de-France. Nous balayerons la carte de France des stations touchées avec Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. À suivre également l'inquiétude de vos commerçants sur les marchés qui commencent à manquer eux aussi d'essence ou de diesel. Et puis la présence militaire en France, française, renforcée sur le flanc est de l'OTAN. Des chars Leclerc ont pris la route de la Roumanie. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le jour le plus long a commencé pour les grévistes et pour le gouvernement qui brandit la menace des réquisitions. Les arrêtés sont pris, mais pas appliqués. Jusqu'à quand l'exécutif avait parié sur la menace pour faire plier les plus déterminés ? Ce matin, le constat est simple. Eh bien, c'est un échec. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec vous, Guillaume Dominguez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du dépôt Esso ExxonMobil de Notre-Dame de Gravenchon, c'est près du Havre. Les grévistes viennent de voter la poursuite du mouvement.
Oui, ils sont ici une trentaine de grévistes sur les 2000 salariés que compte le site. Postés autour d'un feu de pneus sur le parking en face de l'entrée principale de la raffinerie, le mot d'ordre est clair. Les réquisitions annoncées par Elisabeth Borne n'arrêteront pas la grève. Écoutons Christophe Aubert, coordinateur CGT du groupe ExxonMobil.
Pour le moment, on n'a aucune nouvelle des réquisitions qui ont été annoncées. On attend de lire des lettres de réquisition si elles doivent arriver. Mais clairement, notre position à la CGT, ce sera de combattre systématiquement toute réquisition qui serait amenée à être déposée auprès d'un salarié gréviste d'ExxonMobil. Avec des actions juridiques, on a des avocats qui sont d'ores et déjà disponibles pour mener des référés devant le tribunal pour casser la décision du gouvernement.
Voilà un bras de fer juridique qui risque d'ancrer le mouvement dans la durée, une solution qui n'enchante pas les syndicats, même s'ils expliquent ne pas avoir le choix. Ce matin, beaucoup d'entre eux dénoncent la stratégie de la Première ministre.
Je pense qu'elle devrait revoir un petit peu ses positions. Plutôt que d'imposer aux salariés d'aller travailler, elle ferait mieux de mettre en place un dialogue tel qu'on l'a demandé via notre fédération. Entre le patronat des groupes pétroliers, les organisations syndicales se mettent autour de la table pour trouver une sortie plutôt que de nous imposer et de remettre en cause notre droit de grève.
Et la grève qui reconduit jusqu'à au moins 14h cet après-midi. D'ici là, aucun camion ne sortira du dépôt de carburant.
Guillaume Dominguez en direct du dépôt SO ExxonMobil de Notre-Dame de Gravenchon près du Havre.
Alors on vient de l'entendre, la menace de réquisition s'avère contre-productive au Havre. Le conflit pourrait bien durer plus longtemps que prévu, Baptiste Morin.
Oui, on vient de l'entendre donc avec Guillaume. Grève reconduite chez SO ExxonMobil à Gravenchon. Grève reconduite également chez Total Energy sur tous les sites concernés. Et ce, malgré la menace des réquisitions de personnel brandies par Elisabeth Borne elle-même. Les arrêtés sont prêts mais n'ont pas été publiés. Le gouvernement espérait que la seule menace des réquisitions suffirait à faire cesser la grève. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Et de son côté, Total Energy a essayé de relancer les discussions. Le groupe a invité à une réunion de concertation cet après-midi tous les syndicats, dont la CGT, à condition qu'elle lève tous les blocages avant midi. Sans succès, la CGT a donc voté ce matin la poursuite de la grève. Et on l'apprend aussi, la raffinerie de Donges dans la Loire-Atlantique qui rejoint le mouvement à partir de 5h ce matin.
Et Baptiste, sur le terrain, c'est-à-dire dans les stations-service, la situation s'aggrave.
Oui, au niveau national, on compte toujours un tiers des stations-service du pays en manque d'un ou de plusieurs carburants. Ce sont donc plus de 3500 stations concernées. Ces dernières heures, la situation s'est aggravée d'abord en Île-de-France, où on est passé d'un tiers à la moitié des stations touchées. Et puis, dans le centre-Val de Loire, Orléans, Tours, Blois, Vendôme, là aussi, une station sur deux manque d'un ou plusieurs carburants. Certains quarts de transport scolaire de la région pourraient se retrouver à l'arrêt dès demain matin. Et on observe par ailleurs une concentration des stations-service en difficulté à Toulouse et dans les alentours de Toulouse, mais aussi sur la Côte d'Azur.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Alors c'est donc la galère toujours à la pompe ce matin pour les automobilistes. Élargissons un petit peu la focale. Ce sont des pans entiers de l'économie qui sont fragilisés. C'est le cas du secteur alimentaire où l'on peut s'attendre à des ruptures d'approvisionnement.
Ouais, cette fois, ce n'est pas seulement la moutarde qui pourrait déserter les rayons. Toute la chaîne du froid est perturbée. Pas d'essence dans les camions frigorifiques, pas de produits frais livrables dans les supermarchés. Inquiétude aussi des maraîchers de la région parisienne. La paralysie les guette, reportage Wilfried de Villers.
Un tout petit quart de plein, voilà ce qu'il reste dans le réservoir du camion de Christophe.
4 jours de marché, plus un approvisionnement à Rungis, il n'y a plus de gasoil. On va jusqu'à samedi et dimanche, terminé après.
Après, c'est la panne sèche pour le maraîcher. Sous sa casquette, le regard désabusé, il explique faire une soixantaine de kilomètres les jours de marché. Pour trouver de l'essence, tout se joue bien souvent en pleine nuit, du moins quand les stations ne sont pas vides.
À 4h, 4h30 du matin, voir s'il y a du gasoil. Mais quand il n'y aura plus de gasoil pour nous, on restera à la maison, on ne pourra pas faire autrement. Ou il faut sélectionner nos marchés. Puis venir sur certains marchés la semaine pour éventuellement garder les week-ends pour pouvoir travailler. Parce que si ça continue comme ça, on ne va pas tenir longtemps.
Une baisse de son activité, c'est aussi ce que craint Aude. Elle est maraîchère et productrice dans les Yvelines. Sur son exploitation, ses cuves de gazole essentielles pour ses tracteurs sont complètement vides. La faute à un retard de livraison.
Si les réservoirs ne sont pas pleins, on va se retrouver à devoir limiter notre activité pendant 2 jours ou 3 jours. Repousser le travail, manquer de marchandises sur les points de vente, avoir du mal à livrer les points de vente. Voilà.
Jamais la maraîchère n'avait connu une telle situation de pénurie. Sans solution à court terme, elle ne pourra bientôt plus assurer ses objectifs de production.
Reportage Wilfried de Villers.
Voilà, on reparlera de cette grève évidemment dans un instant avec Éric Ciotti, notre invité à 8h13 et à 8h40 dans le club de la presse Europe 1 avec Yves Tréhard et Louis Osalter. Pour l'heure, 8h06 sur Europe 1, le G7 promet de demander des comptes à Vladimir Poutine.
La déclaration commune à l'issue d'une réunion avec la participation à distance de Volodymyr Zelensky. Les bombardements aériens ont continué toute la journée d'hier au-dessus de l'Ukraine. Une vingtaine de villes, dont Kiev, ont été ciblées. Au moins 19 morts et 105 blessés.
Et puis la France décide de son côté de renforcer renforcer sa présence militaire dans les pays de l'Est dans le cadre de sa mission de l'OTAN.
Paris va envoyer des avions Rafale en Lituanie. Une centaine de soldats vont venir renforcer le contingent français basé en Estonie. Mais on franchit un cap supplémentaire avec l'envoi de Charles Leclerc en Roumanie. William Molinier, c'est une sacrée organisation logistique pour l'armée de terre.
Oui, il s'agit d'une douzaine de chars Leclerc à acheminer jusqu'à Tchinkou, au centre de la Roumanie. Un char très mobile, l'un des plus performants au monde, fleuron de la cavalerie française. Selon nos informations, les logisticiens de l'armée de terre s'y préparent depuis plusieurs semaines. Maintenant, 60 tonnes d'acier et de blindage, impossible de les faire rentrer dans des avions de transport type A400M ou Antonov. Reste l'option du train ou de la route, 8 à 12 jours selon nos informations. Pour la première option, 16 jours par la voie ferrée, non sans avoir obtenu au préalable les autorisations de tous les pays traversés, y compris pour les pièces de maintenance et le personnel afférent. Le ratio est de l'ordre d'un logisticien pour 3 à 4 combattants à Tchinkou. Une base militaire est en construction. Elle doit permettre d'accueillir plusieurs milliers de militaires interalliés au niveau de la brigade. C'est jusqu'à 6 fois plus que le nombre de forces de l'Alliance déployées aujourd'hui dans le pays.
William Molinier, spécialiste défense à Europe 1, la guerre en Ukraine et ses conséquences, il en sera largement question ce soir. Emmanuel Macron, invité de France 2 à 20h30. Et puis on vient de l'apprendre, c'est tombé ce matin, dans le cadre de l'enquête sur l'explosion du pont de Crimée, eh bien le FSB, c'est-à-dire les services secrets russes, affirme avoir interpellé 8 suspects.
En bref, ça se confirme pour les propriétaires, la taxe foncière a bel et bien flambé.
Une hausse moyenne de 4,7% dans les 200 plus grandes villes de France, chiffre publié ce matin par l'Observatoire des taxes foncières. C'est parfois beaucoup plus évidemment, plus 23,9% par exemple à Poissy, 19% de plus à Martigues ou encore plus 16% à Tours.
Allez, le football. Le Paris Saint-Germain accroché une nouvelle fois hier soir par Benfica au Parc des Princes en Ligue des Champions.
Un partout, but signé Kylian Mbappé sur pénalty, mais ce sont surtout les révélations de la presse qui ont alimenté la chronique. La star parisienne aurait manifesté son envie de quitter le PSG dès cet hiver. Stupeur de l'encadrement qui affirme n'être au courant de rien, Cédric Chasseur. On ne comprend plus très bien ce qui se passe à Paris.
Effectivement, cette nouvelle affaire Mbappé laisse planer beaucoup de mystères et comme tout le monde, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, cherche des réponses.
Que cette rumeur sorte 4 heures ou 5 heures avant le coup d'envoi, j'ai le droit d'être interpellé. À qui sert cette rumeur? C'est une question que peut-être vous les médias allez poser avec un petit bandeau à la télévision. À qui sert cette rumeur?
Alors tentons d'y voir un peu plus clair. Hypothèse principale, la lutte de pouvoir au sein du PSG. Le mal-être réel de Kylian Mbappé sert le clan du joueur pour reprendre la main. Promesse non tenue lors du mercato, faux départ de Neymar, les reproches sont nombreux. En agitant le chiffon rouge, les proches du joueur pointent du doigt tout ce qui devait changer à Paris et qui n'a jamais eu lieu. Maintenant, faut-il croire à ces menaces? C'est difficile à ce stade. Peu de clubs seront capables d'afficher la somme astronomique qu'il faudra débourser pour acquérir le joueur. Et quand bien même le Real Madrid ou une autre équipe y arriverait, il faudrait convaincre le PSG qui a fait de Mbappé une question d'honneur. Paris ne veut pas entendre parler d'un départ de sa star cet hiver.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe. Il y a la Ligue des Champions encore ce soir. Dimitri, Marseille affronte le Sporting Portugal. Coup d'envoi à 21h. Ce sera à suivre bien sûr dans Europe 1 Sport.
Imaginez Kylian Mbappé à Marseille. Réquisition de Kylian Mbappé. Voilà.
Une rumeur s'ajoute à une autre rumeur.
Merci Christophe Lamar pour votre journal. Dans un instant, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, est l'invité d'Europe Matin.
Europe 1.
Il est 8h13. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Elisabeth Borne a annoncé hier devant l'Assemblée nationale, vous y étiez, la réquisition des personnels des dépôts et raffineries du groupe Esso ExxonMobil, chez qui un accord salarial a été signé lundi. Ce matin, on a l'impression que cette annonce a été pratiquement contre-productive, puisque beaucoup de grévistes qui avaient repris le travail ont finalement décidé de se remettre en grève. On voit que la grève s'étend chez Total. Qu'est-ce qui se passe, Éric Ciotti?
Derrière tout ça, je crois qu'il y a un défaut d'anticipation. Comme souvent, le gouvernement a eu un énorme retard à l'allumage. Ils ont commencé par nier le problème. On a eu M. Véran, c'est un peu le spécialiste pour refuser de voir les choses. Le même qui nous disait il y a quelques années, rappelez-vous, que les masques étaient totalement inutiles, nous a dit il n'y a pas de pénurie. Alors que les Français le mesuraient tous les jours. Et puis, on a eu le président de la République qui a dit « c'est pas au gouvernement d'agir, autrement on passerait cul par-dessus tête », une expression dont il a le secret. Et finalement, eh bien aujourd'hui, ce gouvernement est rattrapé par, par l'épreuve que subissent les Français. Il n'a pas anticipé la réquisition. J'ai interrogé personnellement hier, j'ai demandé à l'Assemblée nationale les réquisitions. Mais une crise comme ça, elle s'anticipe et elle se gère au début. Dans les premiers jours, on peut régler cette solution. Mmh. Maintenant, ça a pris une ampleur qui est énorme. Et des millions de Français voient leur liberté de travailler privée. Et puis, on a vu, c'est aussi, c'est le défaut de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, le manque d'anticipation. On ne réagit qu'après les événements. Le manque de courage aussi.
Oui,
parce que,
Eric Ciotti,
je l'ai dit hier à l'Assemblée, je termine là-dessus, c'est beaucoup plus facile de limoger un policier, on l'a vu à Marseille, que de s'opposer à la CGT. Voilà, ça manque, ça marque aussi cette faiblesse de ceux qui nous dirigent aujourd'hui.
Vous y voyez-vous un manque d'autorité, mais est-ce aussi simple, Eric Ciotti? Car la grève, vous l'avez dit, elle a commencé il y a 15 jours, le 27 septembre. Imaginez que le gouvernement s'en soit mêlé d'emblée. On était réellement à cette époque-là dans un conflit privé, sans incidence sur l'ordre public. Ça aurait été quand même stupéfiant.
L'ordre, quand on est aux manettes, quand on gouverne, on sait bien que si on bloque des raffineries, si on bloque des dépôts de carburant, quelques jours plus tard, il va y avoir des conséquences très graves pour le pays. Donc il faut agir, au contraire, au tout début. Moi, je me rappelle, c'était du temps de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, il y avait eu l'annonce d'une grève des routiers. Oui. Le seul fait d'annoncer que s'il y avait des barrages routiers, on supprimerait les permis de conduire, ça avait tout de suite régler les choses. Donc, il faut de la fermeté, il faut de l'autorité. On ne peut pas laisser le pays bloqué. Il en va de la liberté de chaque citoyen. Comment aujourd'hui des gens qui attendent 4 heures pour faire le plein, d'autres qui ne peuvent pas aller travailler, c'est insupportable. Donc, il faut et il fallait tout de suite des réquisitions.
Encore une fois, vous allez me trouver peut-être embêtant, mais est-ce que c'est aussi
simple ? C'est votre rôle.
Mais oui, non, parce que je regardais la dernière fois qu'on a prononcé des réquisitions à l'encontre de raffineurs. C'était précisément Nicolas Sarkozy, François Fillon, lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il avait fallu à l'époque que le Conseil d'État invoque la proximité du dépôt pétrolier de Gargenville dans les Yvelines avec l'aéroport de Roissy, où l'on risquait de manquer de kérosène, pour que la réquisition soit validée par le droit. Autrement, on s'expose au procès habituel. Bah oui, mais c'est un excès, c'est un usage disproportionné de la loi à l'encontre du droit de grève, Éric Ciotti.
Je ne le crois pas. Je pense qu'en tout cas, il fallait aller dans cette voie, il fallait le tenter et il fallait faire preuve d'autorité, tout en demandant aux entreprises aussi, ce qui n'a pas été fait manifestement, d'aller sur le chemin de la négociation. L'un doit être parallèle de l'autre. Il faut que on demande à des entreprises aussi de régler leurs problèmes.
Mais vous dites à Total céder aux revendications syndicales ?
Ça, c'est le problème de Total. C'est le problème de Total. Le gouvernement, lui, doit faire respecter l'ordre public et la liberté d'aller et venir. Voilà. Mais il peut aussi inciter une entreprise à discuter et à le faire très vite.
Oui. Ça n'est pas simple quand même, parce que vous voyez ce qui se profile, la récession. Inciter une entreprise comme ça à conclure un accord salarial, ça peut donner des idées à d'autres. Vous voyez ce qui se profile derrière, la fameuse boucle prix-salaire. Bref, rien n'est simple dans cette affaire de station-service, Éric Ciotti.
C'est sûr, rien n'est simple. C'est pour ça qu'il faut des dirigeants courageux, des dirigeants visionnaires, tout ce qui fait défaut à notre pays aujourd'hui.
Donc vous, Premier ministre, qu'auriez-vous fait, ou vous, Président de la République, vous auriez fait quoi ?
Immédiatement, procéder au déblocage des raffineries. Ce n'est pas supportable qu'on laisse le pays bloqué. Et là, si ça continue, la situation va naturellement se dégrader. On est à un tiers des stations-service qui ont un défaut de carburant. C'est une situation qui est insupportable pour le pays.
Qu'est-ce que vous craignez derrière, Éric Ciotti ? Des problèmes, des troubles à l'ordre public ?
Ce que l'on craint, c'est une économie paralysée et puis ce sont des Français entravés dans leur vie quotidienne. Il y a des Français qui subissent aujourd'hui la hausse des prix, elle est violente, la hausse du prix du carburant. Vous savez, je regardais sur le prix des carburants, parce que c'est aussi une atteinte à la liberté de circuler, l'État prélève 1 euro sur chaque litre de carburant. Sur les salaires, il y a la question, vous disiez la spirale inflation, salaire, prix salaire. Sur les salaires, l'État prélève la moitié du salaire des Français en réalité. Ce que coûte pour une entreprise un salaire, eh bien, il en revient la moitié quelquefois plus de la moitié à l'État. Donc c'est ce modèle que, personnellement, je dis qu'il faut remettre en cause. On doit arrêter d'être le pays des impôts et des taxes, le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes et de charges au monde, celui où on a le plus de prélèvements obligatoires, celui où on dépense le plus. Ça veut dire que ce modèle, aujourd'hui, il est impuissant et il conduit un pays au déclin. C'est ça qu'il faut réformer, c'est ce que je propose d'ailleurs.
J'entends le candidat dans mon projet. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je commence à entendre le candidat à la présidence des Républicains dans vos dernières phrases. Mais avant cela, brièvement tout de même, Éric Ciotti, le président de la République va prendre la parole ce soir à la télévision, va s'adresser aux Français. Il va parler de la guerre d'Ukraine. Vous avez vu ces bombardements massifs lundi, ces bombardements russes sur 23 villes ukrainiennes. L'ONU débat en ce moment de l'annexion des 4 régions occupées par l'armée russe. 8e train de sanctions adopté la semaine dernière par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Et vous vous dites opposez-vous à l'aggravation de ces sanctions contre la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue ?
Non, je n'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est que ces sanctions, elles sont prises. Moi, je suis solidaire de ceux qui les prennent. Ce que je constate, c'est que malheureusement, elles n'ont eu aucun effet dans l'escalade de la guerre. Et qu'on avance, je dirais malheureusement, avec beaucoup d'inquiétude chaque jour, un peu plus, dans des violences insupportables, dans des attaques de populations civiles. On l'a vu avec les bombardements. Donc moi, j'appelle toujours au dialogue et à un chemin de retour vers la paix. Voilà. Attention de franchir des crans qui, vers lesquels on ne pourrait plus retourner.
Mais qu'appelez-vous la paix, Éric Ciotti ? Une paix de compromis entre les Russes et les Ukrainiens ?
Ça vous paraît encore possible ? Il faut que tout le monde se parle. Il faut que tout le monde se parle. Oui, j'espère qu'il puisse y avoir une négociation, qu'il puisse y avoir une négociation de paix. L'ONU doit jouer son rôle. C'est clair, la Russie est dans une attaque qui est totalement illégitime, d'une annexion de territoires qui n'ont pas lieu d'être. Une fois ce postulat posé, une fois la solidarité exprimée avec le peuple ukrainien, nous devons être les promoteurs d'un dialogue de paix, comme l'aurait sans doute fait le général de Gaulle, qui avait porté une voix de la France indépendante, qui nous permettait sans doute d'être partie prenante dans et non pas dans les grands blocs.
Emmanuel
d'être
Macron
plus
a
indépendant.
Tenté, hein, de jouer ce rôle-là. Hein.
Oui, je porte, en tout cas je soutiens, une France indépendante, gaullienne, qui ne soit pas systématiquement alignée sur des positions étrangères.
Voilà, l'homme de projet donc, est avec nous, Éric Ciotti, et l'invité d'Europe Matin. Vous êtes candidat, Éric Ciotti, à la présidence des Républicains. L'élection est réservée, je le signale quand même, aux adhérents du parti. Elle aura lieu les 3 et 4 décembre. Vous n'avez plus tout à fait le même statut hein, depuis l'an dernier, il faut bien le dire, au sein de LR. Rappelons que vous avez fini deuxième de la course à la candidature à la présidentielle. Cette fois, vous promettez aux adhérents des Républicains une thérapie de choc. Alors c'est violent quand même dit comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette thérapie de choc que vous préconisez, Éric Ciotti ?
C'est éviter la disparition. Nous avons subi de lourds échecs. Nous n'avons plus gagné finalement depuis 2012. Enfin 2012, on a après le départ de Nicolas Sarkozy, qui était déjà une défaite face à François Hollande. Donc depuis 2007, en fait, nous n'avons plus gagné. Ce que je souhaite, c'est redonner une place, la place qui revient à la famille de la droite qui a fondé la Ve République, qui lui a donné 5 présidents de la République, qui a fait progresser notre pays, qui a écrit sans doute les pages les plus progressistes des grandes avancées des 50 dernières années en France, avec les grandes réformes essentielles, et qui aujourd'hui est dans une situation qui désespère nos électeurs.
Oui. Donc, mais pourquoi comment vous expliquez ces échecs ?
Mon constat, c'est qu'on n'a pas retrouvé de leadership. On n'a pas retrouvé de voix, de visage qui incarne la droite. Donc pour moi, la priorité, tout le monde va tenir le même discours, mais mes amis qui sont,
pas tout à fait, justement.
Qui sont aussi engagés dans
pas
cette campagne.
Fait,
oui, mais on dit tous, on est en situation de danger. Oui. Il faut tout changer. Mais moi, j'ai une méthode pour tout changer, notamment pour désigner très vite celui qui doit être notre candidat à l'élection présidentielle. Oui. Je ne veux plus de primaire, je le dis très clairement, parce que...
Oui. Vous dites que c'est un ticket Ciotti-Wauquiez que je propose aux adhérents de LR.
Et je propose, je le dis, si je suis élu, que Laurent Wauquiez soit notre candidat à la présidentielle. On ne peut pas choisir notre candidat à 3 mois d'une élection présidentielle. Alors que face à nous, nous avons des grands leaders, on en pense qu'on en veut.
Mais à 4
ans, ils sont installés, ils sont définis.
Bah, 4 ans, c'est long.
Monsieur Mélenchon, il est là depuis combien? Madame Le Pen, elle est là depuis combien? Monsieur Macron, il est là depuis combien de temps?
Oui, mais enfin, ils se déclarent candidats pas... généralement en quelques semaines, quelques mois avant.
On sait qu'ils le sont. Oui. On sait qu'ils le sont. Donc, il y a la déclaration formelle et il y a ce lien entre les Français qui nécessite souvent beaucoup de temps, des années, de bâtir un projet. Donc, pour moi, l'urgence, elle est là. Ceux qui ne veulent pas le faire, ça veut dire que quelque part, il y a des arrière-pensées, il y a des choix différents, ils sont respectables, ils sont légitimes. Mais moi, dans cette élection, je mets les cartes sur table. Et ensuite, il faut un vrai projet droite. Il faut assumer de rétablir l'ordre dans le pays. Il faut assumer d'être le parti qui baissera massivement les impôts. Il faut assumer d'être le parti qui préservera notre identité là où elle est menacée aujourd'hui. C'est tout cela. Mais il faut avancer de façon parallèle, le leader, le projet... Et une organisation renouvelée aussi, qui aujourd'hui, malheureusement, vous le soulignez, est en difficulté.
Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Éric Ciotti? Elle est écrite dans l'Express par Bruno Retailleau, qui sera votre adversaire pour cette présidence des LR, signée par François-Xavier Bellamy et Julien Aubert, qui sont parmi ses soutiens, mais je la trouve intéressante. Ils écrivent que sous Nicolas Sarkozy, finalement, rien vraiment n'a été assumé jusqu'au bout. Si la droite avait été vraiment à la hauteur de ses promesses, la France irait mieux aujourd'hui. Et la droite aussi. Vous êtes d'accord avec cette idée, comment dire, d'une droite qui promet des choses et qui ne fait que la moitié? Et il cite l'exemple, les heures sup, oui, mais on ne met pas fin aux 35 heures. Les peines planchées, oui, mais on supprime la double peine, etc.
Moi, je crois que ce débat, il est un peu... Je crois que Bruno se trompe de combat. Bien sûr, on peut faire de l'histoire, mais c'est peut-être le travail des historiens. Moi, au devoir d'inventaire, je préfère le devoir d'inventer. Et d'inventer notre avenir. Ce qui préoccupe nos électeurs, c'est l'avenir. Voilà. On a eu deux grands présidents de la République qui nous ont menés à la victoire, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Chacun a ses pages de force, a ses bilans positifs. Il y a des aspects plus négatifs. Mais à quoi ça sert aujourd'hui de remettre ça sur la table? Regardons devant. Moi, je veux rassembler notre famille politique. Je veux exclure personne. Voilà. J'ai vibré à l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est une des plus grandes émotions de ma vie politique en 2007. J'ai été élu député quelques jours après. Je dis, voilà, n'effaçons pas tout ça. On a besoin de tout le monde. Ma famille politique, elle va justement dans tous ceux qui avaient voté Nicolas Sarkozy en 2007, au premier tour. J'y étais, tous n'y étaient pas. Qui avaient voté Nicolas Sarkozy au premier tour en 2007, c'était 32%. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 5%. Eh bien, moi, je souhaite demain être le promoteur du retour de ces électeurs, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient partis vers Emmanuel Macron, qu'ils soient partis vers Marine Le Pen. C'est ça l'enjeu, dire que nous sommes le seul parti de gouvernement, que nous avons un projet audacieux, que nous avons un leader talentueux, c'est ce chemin, mais sans exclusive, sans rancœur. Je ne veux pas une droite restreinte, je veux une droite qui parle à tout le monde, qui soit ouverte sur tous les sujets, qui intègre les évolutions de notre société. Il ne faut pas une droite ringarde, il ne faut pas une droite revancharde, il faut une droite positive, une droite qui rassemble, qui regarde l'avenir, qui invente l'avenir. Voilà, je dis ce devoir d'inventer l'avenir. Il y a de nouveaux défis, l'environnement, l'éducation, la santé. On a été absent sur ces sujets. Bien, c'est tout cela que je veux faire avec tous ceux qui ont du talent. Vous savez, j'ai mes idées, je suis un homme de droite, je l'assume, je le revendique. D'autres ont des sensibilités différentes, mais à la tête du parti, je veux rassembler et pas exclure.
Merci Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et donc candidat à la présidence des Républicains. Restez avec nous Éric Ciotti. Gaspard Proust arrive dans un instant sur Europe 1, 8h28.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h31, le journal permanent Alban Le Prince.
La menace du réquisitionnement du personnel d'Esso ExxonMobil par le gouvernement n'a pas l'effet escompté. C'est d'ailleurs tout le contraire. Ce matin, la grève est reconduite sur le site normand du pétrolier. Reconduction aussi du mouvement dans l'ensemble des sites Total déjà concernés. Il s'étend même en gagnant la deuxième raffinerie de France, celle de Donges en Loire-Atlantique, à l'appel de la CGT qui dénonce une entrave au droit de grève. La direction de Total Énergie convie cet après-midi les syndicats non grévistes à une réunion de concertation et d'échange. La guerre en Ukraine, le FSB, c'est-à-dire les services de renseignement russes, annonce ce matin l'arrestation de 8 personnes, dont 5 Russes, suspectés d'être impliqués dans l'explosion du pont de Crimée qui a eu lieu ce week-end. Dans ce contexte, Paris renforce sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN avec l'envoi dans les prochaines semaines d'une douzaine de véhicules blindés d'infanterie ainsi qu'une douzaine de chars Leclerc. Emmanuel Macron sera l'invité de France 2 ce soir. Premier volet, 100% axé sur l'international. Le deuxième sera diffusé le 26 octobre, cette fois-ci sur la politique intérieure. Un mot de Ligue des Champions, nouveau match nul pour le PSG hier soir face à Benfica. En partout ce soir, Marseille affronte le Sporting Lisbonne. Coup d'envoi 21h, match à suivre dans Europe 1 Sport évidemment.
Merci Alban. Du côté de la météo, Anissa Haddadi, brouillard.
Oui, il faut faire très attention ce matin entre la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. En passant par l'Auvergne, on a beaucoup, beaucoup de brouillard. Certains sont même très tenaces puisque ça ne va pas se dégager dans les Vosges et dans le Jura. Ça va rester encore assez gris cet après-midi. Bon, on a à peu près le même temps qu'hier, c'est-à-dire un temps plutôt ensoleillé sur la moitié nord avec quelques passages nuageux sur la Bretagne et la Normandie. Et c'est plus agité dans le sud, notamment tout le long des Alpes avec des averses en montagne. Sur le massif central, où là, le tonnerre gronde cet après-midi. Puis sur les Pyrénées, les massifs corses aussi. On va avoir de la pluie. Côté température, bon, il fait frais ce matin, vous l'avez senti, on a 0 à 16 degrés du nord au sud. Et cet après-midi, 16 à Dunkerque, 18 à Lille, 20 à Paris-Biarritz, 22 pour Bordeaux et Lyon et 25 à Perpignan.
Merci beaucoup Anissa, 8h33.
7h, 9h,
Europe Matin.
C'est l'heure des signatures, Europe 1 dans un instant. Emmanuel Ducrot nous emmènera au marché de Noël de Strasbourg.
Jingle bells.
Voilà, il paraît que le crucifix s'appelle la croix de JC, c'est ça?
Oui.
Voilà, jolie périphrase. Mais d'abord, Gaspard Proust. Bonjour mon cher Gaspard.
Bonjour Dimitri, j'ai vu que vous avez accueilli Éric Ciotti ce matin.
Ah, il est resté même en studio pour vous. Hein.
Notre Éric Zemmour décaféiné. Parce qu'il faut être honnête, hein, il pense à peu près la même chose. Hein, mais il va le dire avec ses mots à lui. Quoi. Il va dire, nous, républicains, nous pensons que sur un certain nombre de points, Éric Zemmour, bon, il soulève les bonnes questions. Il pose des diagnostics que nous pouvons partager. Mais nous sommes sérieux, nous sommes un parti de gouvernement, bon, qui n'a plus gouverné depuis 5 plus 5, je retiens 1 plus 2, bon, depuis 12 ans. Mais collectivement, nous aspirons, enfin surtout nous expirons, peut-être un jour éventuellement, Inch'Allah, décrocher un portefeuille de ministre des anciens combattants ou de la rénovation énergétique au Sopalin. En fait, la droite, c'est la NUPES des individualistes. Quoi. Comme on se méfie du mot collectif, chacun reste dans son couloir, c'est comme ça.
Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'Éric Ciotti participe à l'élection pour la présidence des Républicains.
Hein. Mais comment l'ignorer ? C'est le sujet central. Les gens qui sont dans les files d'attente pour l'essence, ils pensent qu'à ça. Ils arrivent à la pompe, on leur demande essence ou diesel. Non, Ciotti. Tu vois, c'est... Mais ça, c'est les Français. C'est un peuple politique. Politique, mais sous polet. Il accepte, il encaisse. Puis un matin, on le voit se promener dans la rue avec la tête de Marie-Antoinette au bout d'une pique et dit « Tiens, aujourd'hui, je me sens détendu. » Tu vois, c'est... Le Français, c'est un passif agressif. C'est une sorte de Jonathan Daval en bonnet phrygien. T'sais. Il est là, il chiale aux enterrements, il courbe les chines et puis d'un coup, pff, bam, il part en vrille. Mais blague à part, je pense que Ciotti, ça peut le faire.
Vous pensez qu'il a ses chances,
hein? Ah oui, on sent qu'il a de la bouteille. C'est pas un puceau de la politique, quoi. C'est pas un Bardella qui se coiffe encore l'arrêt avec ce qui lui reste de ses rêves nocturnes mouillés, vous voyez. Ciotti, déjà intellectuellement, il s'est frotté à des pointures comme Christian Estrosi, hein? Le Socrate en motocross, donc à un moment. Et puis il a traversé des épreuves personnelles très lourdes.
Ah bon?
Ah bah oui. Il a sans doute été l'un des rares à assister à cette tragédie humaine, voir Damien Abad galoper derrière une stagiaire. Alors, je dis galoper, c'était peut-être tortillé, chaloupé, j'ai pas le terme technique exact, hein, mais vous voyez l'image. Mais bon, si Pécresse avait gagné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein.
Ah, vous pensez que Valérie Pécresse aurait changé la donne?
Mais c'est évident, elle a dit qu'elle était un tiers Merkel, un tiers Thatcher et un tiers Jedi. Vous imaginez Pécresse au pouvoir aujourd'hui? On aurait des images de Valérie en train de dégommer du syndicaliste au sable laser dans une raffinerie.
Ça vous a pas échappé, là, ce qui se passe aux stations-service. Hein.
Ah oui, j'ai vu, oui. Ça fait quand même du bien d'avoir des mecs comme la CGT pour animer l'automne en France. Hein. C'est-à-dire, heureusement qu'ils sont là, sinon on saurait plus quelle saison il est. Ces gens-là, c'est une sorte de compagnie créole des rentrées sociales. Vous voyez, c'est la Ferrari du syndicalisme. Alors, c'est pas un hasard, d'ailleurs, c'est un sigle. Ça se termine par GT. Sur une bagnole GT, c'est un synonyme de qualitatif, tu vois. La CGT, ça fait un peu casse-couille grand tourisme, tu vois. C'est... Quand ils foutent la merde, tu sais qu'il y a du capot fiscal, enfin qu'il y a du cheval fiscal sous le capot. Tu vois. Ils ont un instinct pour faire venir chier les gens quand ils sont à cran. C'est des cochons truffiers du bordel. Tu vois, c'est un truc. Les gens, ils se remettent à peine de la crise du Covid. Ils voient la flambée des prix. On est au bord d'une guerre nucléaire. Les mecs de la CGT, oh putain les gars, il y a un créneau là. Il faut y aller. Hein. Mais moi, je dis ça, je suis d'accord avec le gouvernement. Du ouais, gouvernement, il faut rien. Non, il faut laisser faire. Là, ils sont. Il faut les laisser. Ils sont dans leur moment émir du pétrole. Là, les mecs.
C'est quoi ça, leur moment émir du pétrole?
Ah bah là, c'est des sheiks en t-shirt Che Guevara. Ils sont assis à Califourchon sur une réserve de gasoil. Ils jouent, je ferme le robinet, j'ouvre le robinet. C'est faut laisser faire, ça va leur monter à la tête. Dans une semaine, on va tous les retrouver en djellaba, mocassins en croco dans un palace parisien avec trois putes au bras, vous allez voir. Hein.
Pour vous, ils prennent clairement les Français en otage, les grévistes, là.
Ah bah, ils ont un petit moyen de pression quand même. Hein. C'est sûr que s'ils travaillaient dans une usine d'espadrilles, ils auraient une marge de manœuvre un peu plus étroite, vous voyez. Bon, heureusement que ça laisse le temps aux automobilistes pour lire le dernier prix Nobel de littérature qui est français.
Ah oui, Annie Ernaux. Vous avez lu Annie Ernaux, Gaspard?
Ah, vous savez, moi, la littérature féminine... J'arrive déjà pas à finir un Marie-Claire, alors un Annie Ernaux. Ouais, mais moi, j'ai rien contre elle, hein, mais ses bouquins... bon, je veux dire, c'est... Si t'es pas passionné par l'avortement en milieu rural, tu te fais assez rapidement chier quand même. Hein, moi, les Virginie Despentes en Méphisto, c'est pas...
Non, mais bon, pas ma cam. Vous caricaturez, il n'y a pas que ça quand même chez Annie Ernaux.
C'est vrai, il n'y a pas que ça. Dans ses bouquins, elle aime bien pleurnicher sur la honte d'avoir intégré un milieu intello alors qu'elle avait des parents cafetiers épiciers. Et ça, je comprends, hein. Quand t'as des parents qui tiennent à une café-épicerie et toi tu finis sociologue des luttes féministes et sociales, c'est sûr qu'ils ont de quoi se tourner dans la tombe, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais enfin bon, puisque nous avons aussi un rôle social ici, j'aimerais terminer par un petit mot d'encouragement pour tous les automobilistes qui nous écoutent. Chers automobilistes, la galère que vous vivez là, ce n'est qu'une répétition générale pour les gens qui vont acheter une bagnole électrique. Le jour où les idiots qui nous gouvernent auront complètement interdit la voiture thermique pour la remplacer par des aspirateurs avec des sièges dessus, tout ça pour faire passer l'empreinte carbone de l'Europe de 2 à 1,8% au niveau mondial, on va rire sur l'autoroute des vacances. N'oubliez pas qu'un plein, ça prend 3-4 minutes. Une charge rapide, je dis bien rapide, c'est 20 minutes. Hein. Et seulement quand le réseau électrique de la station n'est pas saturé. Donc je dis aux gens dans les files, entraînez-vous, respirez. La file d'attente d'aujourd'hui, c'est le temps d'attente normal de demain. Bonne journée.
Ouf. Merci Gaspard Faust, Eric Ciotti, un mot, non? Une réaction?
La fin est très pertinente.
Ah oui, mais là, c'était même,
je crois que,
c'était même pas drôle. Hein,
voilà, non, mais c'est grave. C'est grave parce que c'est un peu le manque d'anticipation. Ouais. C'est la dictature de l'émotion qui nous gouverne aujourd'hui. Bon. Et on ne réfléchit pas aux conséquences. Voilà.
Le début de la chronique vous a un peu moins fait la
bien sûr. Non, si, si. J'aime beaucoup.
Ce n'était pas d'une violence soutenue.
C'est juste l'accent, il n'est pas tellement mis.
Ah, il ne tient pas
il est un peu
fait,
plus marseillais. Mais voilà, il y a quelques nuances.
Il y a des nuances du sud.
Il y a des nuances du sud. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Eric Ciotti. Bonne journée. Gaspard, mais également Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors, on était dans le sud. Nous partons maintenant plein est. C'est Noël à Voleur ce 12 octobre. Vous avez un magnifique cadeau pour nous. C'est l'une de ces histoires enchantées qu'on ne peut rapporter que d'un voyage en Absurdie.
Ouais, je vois vos yeux qui brillent là. Une histoire glanée dans les dernières nouvelles d'Alsace et qui vaut son pesant de bretzel. Plaisir d'offrir. La mairie écologiste de Strasbourg a décidé de s'intéresser de près au Christkindlmarkt. Le marché de Noël, institution vieille de plus de 5 siècles.
Ah oui.
La mairie se soucie de son authenticité. Faut que ce soit alsacien. Et donc, elle a fait ce qu'aiment faire les mairies écolos qui sont rarement Saint-Nicolas. Elle a enfilé son costume de père fouettard et elle a sorti de sa hotte une liste d'interdictions.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut interdire? Et puis, c'est quoi le fil conducteur des interdictions?
La mairie veut interdire tout un tas de choses. Les commerçants du marché n'en sont toujours pas revenus. Elle leur a adressé une liste de ce qui sera interdit à la vente. Alors, d'habitude, les commerçants déclaraient ce qu'ils pensaient vendre. On leur disait oui ou non, c'était emballé. Mais ça n'était pas assez noëllement correct dans la perspective écolo. Et donc, une commission Strasbourg, capitale de Noël, a dressé un inventaire des indésirables du marché. La mairie a dit qu'elle avait associé les représentants des commerçants. Ils sont dubitatifs parce que ça part quand même vraiment dans tous les sens.
Alors, il y a certaines choses, par exemple, qu'on ne pourra plus manger sur le marché de Noël de Strasbourg.
Ah ouais. Interdit raclette, tartiflette, pop-corn, donuts de Noël et poulet grillé. L'idée, c'est de faire
alsacien. La tartiflette, ça marchera si c'est une minstiflette au Münster. Pour les bulles, le champagne est tricard. La seule chose qui sera autorisée, c'est du crémant d'Alsace.
Et puis bon, alors, du local, quoi, en fait.
Du local. Hein. Bon, on commence à faire vraiment dans le clownesque avec la liste des mets autorisés sous réserve. C'est-à-dire que les équipes municipales vont évaluer sur place pour voir si ça colle ou pas avec leur idée d'un Noël traditionnel. Accrochez-vous. Panini ? Noël, pas Noël ? Hot dog ? Loukoum ?
Pas très Noël, non. Loukoum ?
Hot dog, pas hot dog, on se demande ce que ça a d'alsacien, mais bon, très bien.
Loukoum, c'est pas très Noël, non.
Non. Grog de Noël, il y a discussion. Grog à la liqueur de sapin, on verra. Liqueur de pain d'épices, bière chaude, on va réfléchir. Je voudrais bien que vous visualisiez les travaux de la commission Strasbourg, capitale de Noël. À mon avis, il y avait beaucoup de grog au sapin et de bière chaude.
Pareil pour les petits cadeaux en vente dans les chalets.
Ah oui, alors là, on a des interdictions fermes. Pas de déguisement pour chiens et chats, pas de vannerie, poncho, casquette, serre-tête, bottes de Noël et parapluie.
Ah, les bottes de Noël, ça fait pas Noël.
C'est non. Sous réserve, les cravates de Noël, les cartes postales, les cendriers, les décapsuleurs et les planchettes de table. Et puis on s'est posé des vraies questions à Strasbourg. Les boules à neige. Hein, oui ou non ? Alors, un responsable explique que ça dépend du prix et de la qualité. On veut pas des boules made in China. Et puis les crucifix, pardon, les croix de JC, c'est comme ça que ça s'appelle à Strasbourg. Pas sûr, figurez-vous, qu'ils aient leur place au marché de Noël. Ben ça, à moins qu'ils soient locaux, peut-être sculptés dans du Münster, je ne sais pas, c'est pas certain.
Oui, ça va être la fête au marché de Noël cette année, dis
ah,
donc.
Ah oui, alors cette année, la mairie va être pleine de mansuétude, hein, pas d'amende. Elle va se contenter d'enguirlander les commerçants qui bravent les interdits. L'année prochaine, ils seront peut-être carrément privés de Noël. Alors je vous rappelle que l'an dernier, la mairie verte de Bordeaux disait non au sapin coupé. La mairie
mort,
de Strasbourg, oui, l'arbre mort, dit non à la cravate de Noël. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens vraiment très rassurée pour la planète. Les grands défis écologiques sont dans de bonnes mains.
Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Merci pour votre chronique. À demain, à suivre le club de la presse Europe 1, Louis Osalter de Marianne Yves Tréhard du Figaro. On va replonger le nez dans les réquisitions et dans cette grève des raffineries. À tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Il est 9h moins le quart avec un certain retard. Donc l'exécutif a décidé de reprendre l'initiative dans la crise des stations-service. La question est de savoir, est-ce que ça a été efficace? Cette annonce de prise de réquisition hier soir d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale en direction des salariés du groupe Esso ExxonMobil. Pourquoi eux? Vous le savez maintenant, c'est parce que chez ExxonMobil, on a trouvé un accord salarial. La grève donc ne se justifiait plus. Le problème est que ce matin, on le voit, dans les piquets de grève chez Esso ExxonMobil, certains avaient repris le boulot hier. Et ben ils se sont remis en grève, braqués par la décision de la première ministre. Et chez et Total maintenant, on voit la grève s'étendre notamment à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Donges qui était resté jusque-là à l'écart du mouvement. Est-ce que c'est un signe de manque d'autorité? Qu'est-ce que tout cela signifie? Et tiens, il y a un homme qu'on n'a pas beaucoup entendu dans cette crise. On va parler de lui, c'est Philippe Martinez, le patron de la CGT. Bonjour Louis Osalter.
Bonjour Dimitri.
De Marianne, merci d'être avec nous. Louis Yves Tréhard est avec nous aussi, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous avez, je vois, une de journal, c'est celle de Libération, je crois, ou celle du Parisien.
C'est du Parisien.
Avec une belle flamme de pneus, des pneus en flamme. Comment vous interprétez-vous les événements de ces 12 dernières heures? On voit, on se dit, Elisabeth Borne, enfin une réaction d'autorité du gouvernement, et puis on voit que ce sera peut-être contre-productif. La crise pourrait bien s'aggraver du fait de ces réquisitions.
Je dirais qu'on est dans un concentré très français, avec à l'intérieur de ce conflit, de ce bras de fer entre une entreprise qui est détestée parce qu'elle fait des super profits, parce qu'elle est synonyme de pollueur, parce qu'elle est synonyme de rayonnement de la France.
Bertie Bayard, dans votre journal, dit le salaud utile.
On adore se faire, Bertie dit ça, oui, effectivement, elle a tout à fait raison. On adore se faire harakiri, tout ce qui marche, on n'aime pas. Enfin, les Français n'aiment pas. Ou le fond de l'air n'aime pas, plutôt. Et puis, des syndicats qui sont assez peu représentatifs, mais qui, là, nous jouent une partie très serrée, qui est d'ailleurs cachée par ce conflit, entre, j'allais dire, des anciens et des modernes, c'est-à-dire des tenants syndicalistes de la bonne vieille industrie de la chimie, c'est-à-dire des énergies carbonées et des énergies fossiles, et puis eh bien un courant qui est plus moderniste, entre guillemets, si tant est que l'écologie soit moderniste, et qui va probablement prendre la succession de Philippe Martinez au mois de mars prochain, à la tête de la centrale. Et donc, ils jouent leur carte, si vous voulez. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect. Le troisième aspect...
Attendez, juste, j'insiste un petit peu. Vous êtes en train de dire, Yves, que ce qui se joue actuellement dans les raffineries, notamment chez Total...
C'est une guerre, une bataille
intra-syndicale. Il y a le conflit pour les salaires. Et ensuite, il y a la lutte d'influence interne
syndicale,
à la CGT.
Syndicale. Et puis, il y a une troisième chose qui me paraît très importante et sur laquelle on devrait se regarder tous. Mais bon sang, mais c'est qu'on est dépendant, mais super dépendant de ces énergies qu'on dit polluantes. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que d'ici à 2035, où normalement il n'y a plus une voiture à moteur thermique qui doit sortir d'une usine de fabrication de voitures, eh bien, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Parce que là, si ce conflit dure, et il va, à mon avis, durer, dans 3 ou 4 jours, on va être très mal. Le pays va être complètement à l'arrêt.
Alors justement, vous pensez quoi, vous, Louis Osalter? Je lis ce matin, notamment dans les colonnes du Figaro, dans les colonnes du Parisien, des choses assez étonnantes. On voit qu'à Gonfreville, donc c'est la grande raffinerie normande de Total, on traite 10 millions de tonnes de carburant par an quand même. Hein. Vous avez au départ 120 grévistes sur 1200 salariés. Hier soir, au dernier comptage, ils étaient seulement 32. Et à 32, ils bloquent la raffinerie que font tourner d'habitude 1200 salariés. Et la CGT, on l'a entendu hier répondre à Elisabeth Borne, fait « Vous prenez des réquisitions, c'est bien, c'est là que vous nous déclarez la guerre ». Les mots sont quand même très forts.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que la situation s'améliore cette semaine, compte tenu de la réaction des syndicats à ce qu'a fait Isabelle Blanc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, passez-moi l'expression, le gouvernement remet une goutte de carburant dans les flammes, si tant est qu'il en reste. Précisément parce qu'il y avait eu un léger défaut d'anticipation. Alors, on est bien d'accord, c'est pas la faute du gouvernement s'il y a une grève. Tout n'est pas de la faute du gouvernement. Et ce n'est pas de la faute du gouvernement s'il y a un conflit social avec des implications internes à la CGT. En revanche, les messages qui ont été passés la semaine dernière sur une absence de pénurie, ce week-end sur le fait que ça va s'améliorer, aujourd'hui ça ne s'améliore toujours pas. La situation devient même pire qu'hier, y compris avec l'aggravation de la grève ce matin. Politiquement, c'est le gouvernement qui risque d'en payer la facture. Il y a eu ce week-end, c'est pas encore très clair, mais visiblement la direction de Total s'est montrée assez optimiste sur l'issue de négociations, alors même qu'en fait elle s'était pas montrée très allante à négocier avec les grévistes et avait exigé la fin de la grève avant d'entamer et d'avancer les négociations salariales prévues. Et visiblement le gouvernement s'est un petit peu fait intoxiquer par les messages rassurants qui étaient passés par Total. Bon, le résultat c'est que aujourd'hui effectivement ça met dans une situation qui devient presque dangereuse certains services publics. Moi, je pense à la santé, je pense à SOS Médecins, aux infirmières, aux aidants. Donc là, il y a quand même des conséquences qui viennent juridiquement justifier les réquisitions.
Alors, c'est pas si évident, parce que j'ai regardé justement, parce que la question essentielle, c'est est-ce qu'une raffinerie, c'est une activité essentielle ou non? À quoi les grévistes disent, ben non, si vous considérez que le pétrole, c'est essentiel, la France a 90 jours de stock stratégique.
Bien sûr, il y a aussi un motif d'ordre public.
Non, mais on est pris dans nos propres contradictions. C'est-à-dire qu'on nous bassine à longueur de journées, de médias, pour nous dire qu'il faut qu'on fasse cette transition, mais on s'aperçoit que cette transition, elle n'est absolument pas opérée.
C'est ça que vous retenez, vous, Yves, c'est qu'on a la preuve, la démonstration flagrante.
Le reste, je veux dire, c'est un conflit comme on a l'habitude d'en prendre avec une minorité, une poignée de salariés qui prennent la France en otage. Je peux vous sortir tous les clichés. Depuis que je suis journaliste, et c'est pas depuis hier, on ressort toujours les mêmes clichés. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, en l'occurrence là, c'est qu'on va être face à nos contradictions très vite, d'ici, et Louis a tout à fait raison, je pense que ça va aller de mal en pis d'ici à la fin de semaine et que des services publics de première nécessité vont être touchés. Oui. C'est-à-dire qu'il va même y avoir des pénuries alimentaires, me semble probablement.
À cause de l'approvisionnement, oui, tout à fait. Oui. Moi, je pense qu'en fait, il y a une seule bonne question qui est posée par cette grève, là pour le coup, c'est celle des salaires. Alors certes, là, ça concerne quelques centaines de personnes qui font la grève au cœur même des raffineries. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage, alors même qu'il y a quelques dizaines de grévistes. Parce que la CGT est majoritaire dans le travail qui s'effectue au cœur même des raffineries.
C'est 40% des voix dans les raffineries.
Et pas forcément à la sortie de la raffinerie. Donc pas l'approvisionnement,
la CGT
mais la production
elle-même. La CGT pèse plus que FO et CFDT réunis dans les raffineries. C'est-à-dire ça, sa puissance.
Oui, sur les postes concernés.
Son influence baisse. Alors il y a une autre chose qui est intéressante.
Yves, je voudrais juste que Louis développe.
Oui, sur la question des salaires. Je pense que la question aussi, c'est si ce mouvement fait tache d'huile en termes de négociation. Pourquoi ? Il y a plus de 5% d'inflation sur un an mesuré. Le gouvernement n'a pas vraiment abordé la question des salaires, n'a pas été proactif sur la question des salaires, considérant que, après tout, ce n'était pas son rôle et que ce n'était pas à lui de s'ingérer.
Il a dit aux entreprises qui le peuvent, augmenter vos salariés.
Oui, ils ont dit ça, mais l'attitude de Total montre que pour l'instant, en tout cas, ils ne sont pas pressés de le faire. Ils ne veulent pas avancer plus
3,5% cette année.
C'est moins que l'inflation. Mais moi, je ne suis pas en train de vous parler uniquement des salariés Total, de ceux qui sont dans les raffineries, de ceux qui font la guerre. Je vous parle d'un mouvement général. Je me demande si... alors, toutes les corporations ne sont pas aussi organisées et aussi syndiquées que des employés de raffinerie.
Ah, mais des grèves pour les salaires, il y en a partout dans le pays depuis le début de l'année.
Et les négociations, regardez dans les entreprises, les négociations se tendent. Là, sur l'automne, vous allez avoir un automne social, pas uniquement parce qu'il y a un budget à l'Assemblée, parce que la réforme des retraites se profile ou parce qu'il y a une réforme de l'assurance chômage, mais à l'intérieur des entreprises, partout, les négociations se tendent dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de chômage qui baisse, même s'il devrait malheureusement arrêter de baisser, vu qu'on se dirige vers une situation économique plus compliquée. Et le gouvernement n'a pas vraiment assumé cette question jusqu'ici. Donc, cette grève vient quand même illustrer une question qui était un petit peu sous les radars pour l'instant et qui n'a pas explosé de manière éruptive et qui pourrait se manifester de manière beaucoup plus sanglante, j'allais dire, toute proportion gardée, cet automne.
Il y a un défaut aussi qui est manifeste dans ce gouvernement et dans cette majorité depuis 5 ans d'ailleurs. C'est le défaut de prévisibilité. Tous les conflits et toutes les crises auxquelles nous avons eu affaire, eh bien, à chaque fois, le gouvernement a été pris en défaut. Et même la crise sanitaire, d'une certaine façon, qui existait en Asie depuis 3 mois avant qu'elle se déclare et se manifeste de façon flagrante dans notre pays, le gouvernement était averti, était alerté. Et d'ailleurs, il y avait des signaux forts à l'intérieur de l'équipe gouvernementale qui n'ont pas été avoués et qui ont été cachés. Et à chaque fois, ce gouvernement nous sort un discours qui est plutôt assez optimiste. Ouais. Assez optimiste. Et regardez le ministre de l'économie actuellement. Il est extrêmement optimiste encore sur la croissance.
1%, nous dit-il.
Alors que, qu'est-ce que vient de nous dire le Fonds monétaire international ? C'est que le monde entier, je ne vois pas pourquoi la France y échapperait, va tomber en récession. Donc, il faut se préparer à cela. Or, c'est plutôt le système D qui est agité par le gouvernement au lieu de... Parce que la grève des carburants, elle était...
Ça fait 15
jours. On pouvait
l'anticiper
depuis 3 semaines.
C'est le 16e
jour
de cette grève.
Mais bien sûr.
On est au 16e jour de cette grève.
Ça fait 3 semaines.
Sur un thème, quand même, dont on parle depuis le début de l'année, les carburants.
Exactement.
Avec comme conséquence
les
pénuries, que c'est un thème.
Et les salaires.
Et les salaires. Il y avait tout, finalement.
Tout fait partie de ce cocktail-là. Et s'il y a une anticipation aussi sur les salaires, effectivement, les prévisions de croissance pour l'année prochaine sont vraiment pas terribles. Et encore, la France. Alors, le FMI dit que la France pourrait échapper à la récession. Pas l'Allemagne, pas l'Italie, donc quand même des voisins.
Pas comment on pourrait s'en sortir.
Et ce qui est important surtout, c'est que le budget actuellement en discussion est basé sur une hypothèse de croissance qui est irréaliste. C'est-à-dire qu'aucune institution, qu'elle soit française ou internationale, ne suit le gouvernement sur une prévision de croissance de 1%. Qu'est-ce que ça veut dire pour cet hiver ? Ça veut dire que la situation des ménages, qui s'annonce déjà compliquée à cause de l'inflation générale, la hausse de la facture énergétique en dépit de, c'est vrai, la protection du bouclier tarifaire et tout ce qui va s'en suivre, va être encore plus grave que ce qu'on anticipait jusqu'ici. Parce que la croissance économique va caler pour tout un tas de raisons qu'on développe depuis 2 semaines. Et c'est pour ça que la situation sur les salaires se tend en ce moment. C'est parce que là, il y a une fenêtre d'ouverture pour justifier la hausse des salaires en disant « Regardez, il y a 5% d'inflation, il faut augmenter les salaires maintenant », y compris parce que les acteurs économiques anticipent un hiver compliqué et qu'il faut faire quand même quelques réserves avant de payer les factures de l'hiver et du printemps.
Merci Louis Osalter. La une de Marianne demain ?
Demain, c'est sur les 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty, ne pas oublier, y compris dans un contexte d'offensive islamiste à l'école.
Ils ont gardé leur une, ils n'ont pas changé pour les carburants. Non, c'est bien, on a des convictions chez Marianne. Merci beaucoup Yves Tréhard.
Merci beaucoup à vous.
La une du Figaro consacrée ce matin à cette crise des carburants.
Évidemment.
Lisez la tribune de Bertie Bayard. J'ai pas eu le temps d'en dire plus, mais elle est. Oh, c'est Bertie Bayard.
Bah
c'est
toujours très, très c'était bien. C'était excellent.
Voilà, merci beaucoup. Merci Yves.
Merci.
Culture Média sur Europe 1 dans un instant. Philippe Vandel en 2 secondes, parce qu'il faut qu'on lance la pub. Dites-nous tout.
On va aller très vite. On sera avec Stéphane Bern qui lance une nouvelle collection. Les Secrets 2, il commence par l'Elysée. Et puis Jack Mimoun et Les Secrets du Valverde. C'est un film d'aventure dont on dit qu'il va remonter le box-office français. L'auteur et aussi comédien Malik Bentala sera avec nous. Il y a aussi commandeur dedans, François Damiens, Benoît Magimel, rien que ça.
Merci Philippe, bonne émission.
Merci.
Europe Matin revient demain matin dès 7h. Bye bye, bonne journée à toutes et à tous.